Médias Sorare. Médias Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare.
Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Médias Sorare, site sur lequel vous pouvez retrouver les dernières actualités, des analyses, des conseils et même une rubrique coaching. Alors lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Victor, alias Football Champagne, spécialiste SO5 Football qui nous a expliqué sa stratégie affinée. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sébastien, alias Guest Star, un des plus grands spécialiste Asia. Salut Sébastien.
Salut Mehdi.
Bah écoute, je suis super content enfin d'avoir un nouveau spécialiste Asie. Le seul et unique, je pense, c'était Deglingo, Guest Star. Bah, une vraie star quand même sur Twitter et dans la communauté asiatique.
Ah, tu trouves? Ouais, non, star c'est très fort. On va dire que j'ai un petit peu de visibilité et j'ai surtout une belle commu qui interagit avec moi en permanence. Voilà, surtout ça.
Tout à fait. T'es vraiment très actif, très suivi. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Alors Sébastien ou Seb pour le reste du podcast?
Seb, c'est très bien. On est intime maintenant, Mehdi.
Voilà, tout à fait. Ça a été très rapide. Est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté sorarienne?
Alors, bah moi, Sébastien, j'ai 40 ans, je vis sur Lyon. Je suis marié depuis 15 ans avec ma femme. On a un petit bout de 3 ans, un petit gremlin sacré, comme j'aime le dire. dans la vie, je suis directeur commercial pour une PME qui est en Haute-Savoie et qui vend des produits de jardin bio. Donc, je sais que ça te parle beaucoup. C'est un sujet de prédilection pour toi, Samedi.
C'est une de mes passions, effectivement, tout ce qui est permaculture. Et là, on est au mois de mars et effectivement, je suis très actif dans mon jardin et dans mon verger et ça tombe bien, comme ça je pense à autre chose en dehors de Sorare. Bon, on aura le temps d'y revenir pendant le podcast. Alors à Lyon, t'es fan de Lyon?
Ouais, alors je suis l'Olympique Lyonnais, évidemment, donc je sais que c'est un peu antinomique avec toi, mais
écoute, c'est pas grave, on joue plus dans la même catégorie.
Ouais, alors sincèrement, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de catégories d'écart en ce moment quand tu regardes Lyon jouer, mais voilà, clairement supporter de l'Olympique Lyonnais depuis que je suis tout petit. Après, je suis pas un bad gun ou quoi. Enfin voilà, si demain je suis invité à aller voir un match de Saint-Té, perso, ça me posera aucun problème quoi. Voilà.
Pas ouais, c'est comme si moi aussi on m'invite à Lyon, surtout depuis Sorare. Avant Sorare, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Mais depuis Sorare, on peut aller même au Real Madrid. Hein. Je suis fan du Barça ou au Standard de Liège et je suis Anderlecht et l'Union, donc ça pose plus de problèmes depuis qu'à Sorare, je trouve. Je sais pas quel est ton avis par rapport à ça, mais
pareil, exactement comme toi, ça ouvre vraiment des horizons et je trouve que pour le coup c'est vraiment une bonne chose parce que on voit des fois le foot fait faire certaines dingueries, on va dire, à des supporters, et je trouve que quand tu joues à Sorare, ça t'enlève un petit peu ce côté passionnel, mais dans le mauvais sens du terme, et ça te permet de relativiser un peu. Et effectivement, tu peux avoir des joueurs de Marseille, de Paris, tu vois, des équipes, elles sont mixtes avec des associations normalement improbables, donc ça c'est un gros point fort, je trouve, du projet Sorare.
Ouais, et puis ça aiderait bien aussi le marché Sorare si tous les fans de foot s'y mettaient.
Ah, ça, on est bien d'accord.
Pour terminer ta courte présentation, quelles sont tes passions dans la vie en dehors de Sorare et, je présume, de ta famille?
Ouais, la famille, effectivement, c'est très important pour moi. Après, je suis un très gros féru de sport. Alors, le foot, j'adore le foot, mais c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué personnellement de manière assidue et en compétition. Par contre, depuis que j'ai 3 ans, mon père m'a mis sur un tatami de lutte. Donc, j'ai fait de la lutte de 3 ans à 11 ans. J'ai fait beaucoup de basket, donc de 12 à 18 ans. Donc, je sais que ça, c'est un sport que tu aimes beaucoup. Donc, j'ai joué jusqu'en niveau N2 sur Lyon.
À 18 ans?
À 18 ans, j'étais surclassé sur poste de meneur de jeu avec une équipe qui était en N2. On est resté un an en N2, après ils sont descendus en N3, puis moi j'ai changé de sport après.
Ça te changeait de sport alors que t'étais en N2 à 18 ans? C'est vraiment atypique. Tu sais, t'en avais marre ou quoi, les entraînements?
Alors, ouais, mais rapidement, j'avais un coach qui pour le coup est en plus très connu puisqu'il a coaché l'ASVEL quelques années après, qui s'appelait Pierre Bressan, si ça te parle. Il me semble qu'il a encore le record du nombre de passes décisives ou quelque chose comme ça au niveau français. Enfin voilà, c'était un coach qu'on avait dans notre club, dans l'aglo lyonnaise. Et donc moi, je jouais avec l'équipe, mais si tu veux, j'avais très 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 peu de temps de jeu. Et puis moi, 18 ans, t'es jeune, t'es plein de testostérone, t'as envie de jouer, sachant que normalement tu joues avec le niveau du dessous et ça se passait plutôt bien avec l'équipe de jeunes. Et donc moi j'attendais d'avoir beaucoup de temps de jeu et j'étais pas trop patient à cette époque-là. Et rentrer une minute par match ou voire souvent pas du tout durant le match, j'ai préféré changer de club et puis retrouver des comment dire
du plaisir. Aspect,
du plaisir et puis redémarrer sur autre chose. Donc après je suis parti rien à voir, je suis reparti en sport individuel et j'ai fait de la boxe française. J'ai attaqué la boxe française tard pour le coup parce que j'ai attaqué à 18-19 ans et je suis monté assez rapidement en compétition. J'en ai fait pendant 15 ans sur le plus haut niveau français, enfin ce qu'on appelle les élites. Mm-hmm. J'ai réaccroché les gants, j'avais quel âge, 32-33 ans, ça va faire 7-8 ans que j'ai pas mis les gants.
OK quand même. Ah ouais, donc très très sportif. Et pour revenir au basket, tu joues à quel poste ?
Meneur de jeu. Quand j'étais chez les jeunes, j'étais plutôt deuxième arrière, je pouvais même jouer ailier, mais avec les grands, on va dire, je fais 1m78, donc poste de meneur, j'avais pas le choix.
Ok, je vois. Et pour le coup, Sorar NBA, non, t'as hésité
Alors, je suis rentré au départ, parce que forcément, la NBA, c'est voilà, moi je suis la génération, Jordan, Magic, enfin un peu comme toi, on a connu les Penny Hardaway, c'était mon meneur de jeu préféré, Magic.
J'aime écouter ça.
c'était fabuleux, avec le check, c'était magnifique, donc j'ai démarré un petit peu au départ, mais j'ai surtout fait un peu d'AR pour rien te cacher, parce que j'ai senti avec la douille un petit peu qu'on avait eu sur la MLB quelques temps avant, même si la NBA est bien plus conséquente, mais je me suis dit les prix ça va encore flancher, donc j'y suis pas resté très longtemps. Et puis bon, on a tous une problématique, tu l'abordes souvent dans tes podcasts et c'est tout à fait vrai pour moi, c'est cette problématique de temps, parce que mon job me prend quand même beaucoup beaucoup de temps, je tape beaucoup d'heures dans la semaine avec mon travail. Donc il y a un moment je me suis dit je vais là-dedans, je me connais, je vais trop me disperser. Déjà que l'Asie, on en parle après, mais on se lève tôt. Si je me mets à regarder des matchs à 3h du mat, il y a un moment, je pense que ça va se ressentir au niveau de mes commerciaux. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dit, la NBA, laisse tomber. J'ai acheté, j'ai revendu pour le coup plutôt en gain, enfin même quasiment tout en gain. Parce que
c'était une belle opération finalement.
Ouais, j'ai acheté à peu près un mois après le début de la NBA. Ça avait commencé à chuter, puis après, ça remontait petit à petit. Puis j'ai découvert le fameux système, tu sais, où des joueurs qui n'étaient pas forcément excellents, mais servaient beaucoup aux différentes caps pour les managers. Mmh. Et en fait, des joueurs qui, pour moi, n'étaient pas top, enfin, en tout cas, version foot, je les ai tous revendus en PV quasiment, et je ne suis pas rentré depuis sur la NBA.
Ouais. Moi, j'ai mis un peu plus de temps avant de quitter, mais c'était difficile. On n'a plus 20 ans ni 25 ans pour se lever pendant la nuit et être frais dispo le lendemain. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi, il me faut un jour et demi pour récupérer si je passe une nuit blanche, quoi, au moins.
C'est clair, la récup maintenant, c'est le truc le plus difficile.
C'est plus compliqué. Voilà, exactement. B, merci pour cette brève présentation. Et on va attaquer le sujet qui intéresse tout le monde. Sorar, tout d'abord, comment est-ce que tu as entendu parler de ce jeu?
Alors, j'ai entendu parler de Sorar un peu à l'explosion des NFT, et notamment avec NBA Top Shot. Je crois que c'était peut-être sur BFM, je suis pas sûr, mais j'avais entendu parler notamment d'une vente d'un LeBron James qui était parti vraiment, mais très 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 cher. Mm-hmm. Et donc, je me souviens, j'étais dans mon canapé, et je vois ça, je dis, c'est en train de vraiment exploser, parce que les NFT, on entendait de plus en plus parler avec les CryptoPunks, etc. Mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est intéressant. J'ai commencé à regarder un petit peu sur internet, et vraiment par hasard j'ai tapé foot NFT dans la barre de recherche Google, et je suis tombé sur Sorar. J'ai commencé à regarder un petit peu le concept, 2-3 vidéos YouTube qui se faisaient à l'époque sur comment se lancer, etc. J'ai rapidement déposé mes premiers ETH dessus.
T'étais déjà familier au monde des cryptos?
Absolument pas. Je suis rentré sur les cryptos via Sorar. J'ai un profil investisseur, mais plutôt entre guillemets un peu plus tradit sur des actions boursières. Alors j'ai forte propension au risque, parce que j'investis des fois je peux investir des sommes à mon niveau assez importantes sur des pré-IPO. J'ai fait pas mal de pré-IPO sur des biotech, des choses comme ça. Donc c'est déjà bien au niveau risque. Non, t'es déjà bien costaud.
Tu connais les montagnes russes, quoi. Avec les biotech,
j'ai connu un moins 70% en un jour. J'ai connu un plus 200% en un jour. Enfin voilà, j'ai connu des trucs comme ça. Où là c'est plutôt le rythme des nouvelles qui fait que tu pars très fort en haut ou très fort en bas. Ouais. Donc au niveau investissement, ça me posait pas vraiment de problème. Mais sinon, au niveau crypto pur, non, j'y connaissais absolument rien. J'étais juste comme tout le monde, j'avais entendu parler du Bitcoin, mais je m'étais pas vraiment intéressé à la techno.
Ok. Et donc NBA Top Shot, finalement, t'es rentré ou pas là-dedans? Non.
Non.
Tu t'es directement dirigé vers le foot.
Il y a plusieurs choses qui m'ont ces dernières années, je suis quand même beaucoup plus le foot. Le basket, si tu veux, je suivais vraiment du temps de Jordan. J'étais à fond sur la période la période des bulles, c'est tout. Après, j'ai lâché un petit peu derrière, et le sport que je suivais quand même le plus, c'était vraiment le foot. Voilà, ça me parlait déjà un petit peu plus. Et puis, sincèrement, il y avait le côté aussi, j'aime bien ce côté aussi un peu cocorico, quoi. C'est une boîte française. Mm-hmm. Nicolas Julia, ils sortent de l'EM Lyon, je sors de l'EM Lyon. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de trucs où je me suis dit, ah, c'est top.
Ça te parlait, quoi.
Voilà, ça me parlait. Il est venu faire une conférence l'année dernière. J'étais en déplacement, malheureusement, mais dans les locaux de l'EM, là, j'étais dégoûté de pas pouvoir y assister. Mais voilà, je me suis dit, bon, le gars, il a lancé ce projet, c'est un entrepreneur, ça cartonne, on va participer, quoi.
Ouais, et puis c'était à la bonne période, enfin, mars 2021, enfin, c'est une bonne transition, comme ça, je présente vite ta galerie avant de te demander comment est-ce que tu avais commencé, etc. Mais, donc, tu t'es inscrit le 11 avril, donc c'est peu de temps après la première grosse levée de fonds avec Griezmann, Piqué, etc., qui avait eu lieu en mars 2021. Donc là, aujourd'hui, tu as une galerie, j'ai toujours l'habitude de présenter en valorisation.
Est-ce que ça veut dire quelque chose aujourd'hui?
C'est voilà. Aujourd'hui, là, vraiment aujourd'hui, ça vaut un peu plus de 9 éthers.
Ouais. Attends, réactualise, Mehdi, je suis à 8,5. Réactualise, je suis à 8. Ah, je suis à 7,5.
Non, t'es à 9,5.
Ah, pardon. 9,5. Ouais, mais dans une heure, je suis à 9, je pense.
Et hier, t'étais à plus de 10. Bon.
Ah oui, il y a une semaine, j'étais à 10,5, exactement.
Voilà. Voilà, t'es à 9,5, donc j'ai rafraîchi et c'est légèrement monté quand même.
Ah, super.
Donc c'est une bonne nouvelle. tu as 110 cartes limited. D'abord, t'as 418 custom.
Ouais, j'ai fait la collection complète.
T'as fait la collection
complète, je les ai toutes, ouais.
Ok, de toutes les équipes qui ont participé.
J'ai les petites étoiles qui brillent, là, quand tu finis une équipe, je les ai toutes.
Ah, génial.
Un vrai débile.
Non, mais c'est un vrai collectionneur. Et donc, en cartes valorisées et qui sont utilisées pour le SO5, tu as 110 cartes limited, 61 cartes rares, 17 cartes super rares, tu as obtenu 141 rewards depuis le début et tu as un reward winning lineup qui est quand même pas mal du tout, proche de 20%. Et quand je regarde ta galerie, évidemment il y a une majorité de joueurs Asia, mais pas que, tu as quelques Américains dedans, je pense, mais bon, ça on y viendra un peu plus tard. Est-ce que tu peux m'expliquer quand tu t'es inscrit en avril 2021, comment est-ce que tu t'es pris, quelle est la somme que tu as mise et tutti quanti?
Alors, je commence un peu par la fin de ta question, mais au niveau de la somme, j'ai regardé hier justement, parce que sincèrement, je savais plus trop, vu que j'ai mis petit à petit, mais en tout, je suis à peu près à 8000 euros à peu près de dépôt sur Sora. Au tout début, te dire combien j'ai mis au début, je crois que j'ai mis quelque chose comme 3000 euros à peu près.
Ah ouais, quand même, donc t'as été franco, quoi.
Ouais, enfin... Enfin, c'est comme les investissements dont on parlait avant. J'y vais pas si c'est pour mettre 100 euros. Enfin, c'est pas mon fonctionnement. Voilà. Si je crois un projet, j'étudie un peu avant, je regarde un peu tout, les tenants et les aboutissants. Si ça me paraît cohérent, j'essaye de mettre une somme qui me paraît correcte, qui me met pas du tout en péril. Mais voilà, si ça marche, par contre, le but c'est quand même qu'il y ait un levier qui soit important derrière. Je joue pas, je pose pas de l'argent pour gagner 500 ou 1000 euros. Ça m'intéresse pas.
Ok. Donc un profil un peu similaire au tien.
Ouais. Je pense, en ayant parlé avec toi, je pense effectivement qu'on est un petit peu pareil là-dessus. Donc je suis rentré, il y avait que des rares à l'époque, si je dis pas de bêtises, les limited sont arrivés plus tard.
Ils sont arrivés en août. Ouais.
Voilà, exactement. Et au départ, alors je vais pas faire exception à la règle. Comme la plupart de tes invités, j'ai fait toutes les bêtises possibles et inimaginables. J'ai acheté de plusieurs championnats sans me fixer sur l'Asie. Au départ, j'ai acheté un peu de tout. Notamment, je cherchais un GK pas trop cher. Donc, le premier GK que j'achète, il part en non couvert. Je le remplace par un autre GK qui ne joue pas un match et qui devient numéro 2 alors qu'il avait été numéro 1 toute la saison. Parce que j'avais pas fait ce boulot-là que je fais automatiquement maintenant de recherche. Et donc voilà, je me prenais pas trop la tête en fait. Tu vois, je disais, il est pas cher, il a 300 euros ce GK. Allez, vas-y, je prends ce GK-là. Résultat, j'enchaîne deux GK coup sur coup, des catastrophes. Bref, donc ça c'était mon début, un petit peu compliqué. Et puis après, j'ai reposé un petit peu d'éther. Je me suis un peu renforcé. Donc pas forcément full Asia au départ, mais je jouais, ma stratégie c'était clairement jouer les paliers. Et j'ai rapidement quand même, c'était à l'époque, on rappelle, c'était 210 et 250 points.
205 et 250.
Bon, j'ai rapidement, comme tout le monde, réussi à prendre mes paliers. Et quand ça a commencé à prendre régulièrement, donc il y avait peut-être une ou deux rewards au milieu que je pouvais revendre. J'ai commencé donc à augmenter un petit peu ma galerie. Puis là, j'ai passé un peu plus de temps sur Sora et j'ai commencé à faire un peu de stratégie AR. Donc là, par contre, je commençais à me renseigner un peu, notamment sur l'Asie, puisque je trouvais que le ROI était très intéressant par rapport aux investissements que j'y mettais. Parce que avec 3000 en Asie, tu pouvais faire quelque chose de pas trop mal. Par contre, si t'allais en Champ Europe, tu t'achètes même pas une carte, quoi. Enfin,
c'était très compliqué à l'époque, quand même.
Voilà. Tout à fait. Donc, t'as raison de dire à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec 3000 euros, même en Champ, c'est pas mal, en fait. Hein.
Tu prends quasiment 5 Benzema.
Ouais, c'est la folie, c'est vrai quand il
plus, pardon.
Et tu te rends compte, on tourne le podcast là, enfin aujourd'hui, ça se trouve, dans une semaine, ce qu'on dit, ça sera encore pire.
Ouais, ou peut-être mieux, écoute.
Ou peut-être mieux.
Ouais, écoute, peut-être pas la semaine prochaine, non.
La semaine prochaine, ça risque d'être encore, ça risque de se dégrader encore un petit peu.
Je parlais de Benzema, alors Benzema.
Vas-y, fais-nous saigner des yeux.
Benzema, il est à moins de 500 euros, donc t'as 6 Benzema quand même.
Incroyable. Ouais. À l'époque, t'avais même pas le pied de Benzema.
Ouais, t'avais la moitié du corps à la limite. Ouais. C'est pas plus.
Donc bon, à l'époque, voilà, on se remet dans le contexte, les auditeurs. Avec 3000 euros, l'Asia, c'était bien. on pouvait monter une équipe qui tenait la route, aller chercher de la rentabilité. C'était ce qui me paraissait, intéressant. Et puis, là où j'ai commencé vraiment à progresser, on va dire, notamment au niveau de la valeur de ma galerie et de mes cartes et de la qualité de mes cartes, c'est quand les limited sont sortis, puisque rapidement je me suis rendu compte de l'hyper liquidité de cette rareté par rapport aux rares. Donc moi, les limited, clairement, je les ai joués en full AR, c'est-à-dire que tout était vendable. Je pouvais aligner des équipes, mais je mettais tout en vente, et si les cartes se vendaient 10 minutes avant, ça partait, c'est pas grave. J'étais prêt à ne pas du tout aligner d'équipe quand je jouais les limited. Le but, c'était juste de faire de l'AR en permanence, et là, pour le coup, ça m'a vraiment bien réussi, parce que ma galerie est vraiment montée d'un coup. Alors ça me prenait quand même beaucoup de temps. T'as eu Phil, c'est un peu dans le même profil. Tu en parlais très très bien. Alors j'étais pas à leur niveau. Déjà, j'ai pas eu les mêmes résultats qu'eux. Rien à voir avec eux. Mais je veux dire, je n'y passais pas du tout le temps qu'ils y passaient. Mais je devais bien, à mon niveau, passer 3 heures par jour sur Sora. C'était déjà beaucoup, quoi. Donc j'y passais vraiment beaucoup de temps. Et là, ma galerie a vraiment grossi. J'ai certainement fait des bons choix. Puis j'ai certainement aussi bénéficié d'un marché qui était en bulle complet. Et c'était facile. Hein. Enfin, je dis ça maintenant avec du recul. Parce que je me dis, peut-être qu'à l'époque, en fait, j'ai rien fait d'exceptionnel, c'était juste facile d'acheter, de revendre des limited sans trop de connaissances. Mais la stratégie c'était donc de monter un maximum au niveau de mon portefeuille pour aller renforcer mes rares et augmenter la qualité de mes rares. Voilà comment j'ai procédé.
Ok, donc une tactique de vase communicant, quoi. Donc,
complètement.
Ce que tu dégageais grâce à ta stratégie aller-retour achat-revente en limited, c'était pour alimenter, par contre, plus orienté SO5, ta galerie rare, quoi.
Exactement. Essayer d'aller chercher des cartes qui me faisaient rêver à l'époque, qui étaient inaccessibles. J'ai réussi à en choper une bonne partie en faisant ma stratégie d'AR qui a vraiment duré un bon moment. Donc là, j'étais à cette époque-là, dans mon esprit en tout cas. Donc là, on est septembre octobre 2021, quelque chose comme ça.
Ouais, donc t'as quand même réagi assez rapidement après la sortie des limited, quoi.
Ouais, c'est quand je regardais les courbes sur SD, évidemment, et je voyais le nombre de cartes qui étaient vendues par jour. Tu comparais ça avec c'est toujours le cas, mais tu comparais ça avec un graphique rare, je me disais, mais il y a vraiment quelque chose à faire, ça bouge en permanence. Et puis, forcément, il y a le FOMO tout le temps avant les Game Week. Donc, tu ciblais un ou deux match-up dans 2-3 Game Week. Je faisais beaucoup ça, par exemple, avec certains joueurs que j'achetais et je revendais en permanence, style Daily Blind, par exemple, à l'Ajax. J'ai pas arrêté de faire de l'AR sur lui, je crois que j'ai fait au moins 10 AR sur ce joueur-là. Pour le coup, c'était assez facile, quoi. Tu voyais les vagues, elles étaient claires, précises. Tu savais quand il fallait acheter, tu savais à peu près combien t'allais le revendre, sauf blessure, évidemment. Donc, ça m'a vraiment permis d'augmenter mon roster et d'aller chercher de la qualité en rare. Donc ça, c'était vraiment un profil pur investisseur, rentabilité. Et j'étais vraiment comme ça. Aucun attachement à mes cartes. J'ai vraiment été comme ça jusqu'à septembre-octobre 2021.
Ouais.
Et puis là, il y a eu séisme dans ma stratégie. C'est-à-dire que j'étais beaucoup sur le Discord français, donc sur le channel Asia. Et je parlais donc toujours avec les deux, trois mêmes énergumènes qui se reconnaîtront, dont notamment Piccolo, qui est devenu un très bon ami à moi. et en fait on échangeait énormément d'infos sur l'Asie, et puis on était beaucoup dans la transmission, les gens venaient régulièrement nous poser des questions, parce que forcément moi ça faisait 6 mois que je pensais l'Asie, donc il y avait quand même une certaine je commençais à monter
T'as vraiment décortiqué le marché asiatique de fond en comble, les deux ligues, donc aussi bien Coréenne, la K-League que la J-League.
Vraiment je me suis dit Sorare c'est déjà une niche, moi je vais aller dans une niche de la niche, et quitte à y aller, autant entre guillemets essayer de maîtriser un maximum mon sujet. Donc la J-League, je partais de zéro, on en parle après plus en profondeur on va dire, mais je partais de zéro, et donc je me suis dit il faut que j'augmente à fond mes connaissances, puisque j'avais eu les mauvais coups que j'avais eu avec les GK, je voulais pas reproduire ça. Donc j'ai vraiment commencé à traduire des articles de journaux en japonais, enfin vraiment j'ai été assez loin dans le process, à beaucoup échanger avec ceux qui me semblaient pertinents et avaient des connaissances, et donc ça m'a permis d'avoir une rapide montée en compétences sur cette ligue là donc on échangeait énormément sur ce Discord, et puis en fait au bout d'un moment je me rendais compte que les informations elles étaient surtout c'est surtout moi qui en donnais, qui transmettais, et je recevais plus énormément, enfin en tout cas j'apprenais plus grand chose sur
grâce
ce
aux autres quoi.
Voilà, exactement. Et puis même si je suis à fond pour transmettre tout ce que je peux à tous ceux qui me contactent sur Twitter, j'essaie de tout le temps répondre, de donner un max d'infos, mais malgré tout sur Sorare on le sait la formation c'est quand même c'est un peu le pouvoir, c'est très important. Et donc avec Piccolo on s'est dit on monte notre propre Discord fermé Asia, avec des gens entre guillemets qu'on va plus ou moins sélectionner, dans le sens où on veut des gens qui ont déjà une certaine connaissance de l'Asie, puisqu'on voulait éviter de retrouver des questions sur l'autre Discord le Discord français. On avait des questions des fois, tu voyais que les gars ne faisaient aucun effort de recherche. C'est quoi le mieux, c'est Langrac ou Demiao, enfin tu vois, un mec qui est un gardien entre un gardien et un attaquant, on disait mais de quoi tu nous parles, c'est quoi ta stratégie. Et en fait tu vois que le gars il avait fait zéro recherche, et en fait on s'est dit on va éviter ça, on veut quand même des gens qui s'y sont déjà intéressés, avec qui on va pouvoir échanger entre guillemets d'égal à égal, on va transmettre mais ils vont aussi nous donner,
nourrir mutuellement quoi.
Exactement, voilà, exactement, tout à fait, qu'on ait de l'échange. Et puis quand on a créé ça, en fait ça a été la folie, parce qu'on a eu énormément de demandes, et puis aujourd'hui on a une communauté qui est ultra soudée, on parle plusieurs dizaines de fois par jour ensemble, il y en a qu'on a rencontré, c'est devenu des amis, et là par contre là ça a changé, puisque de full investisseur j'ai commencé vraiment à me prendre au jeu, puisqu'on avait une certaine compète entre nous, et donc là j'ai commencé à vraiment vouloir jouer le SO5 sérieusement, à plus revendre mes cartes, à m'attacher à mes cartes. Ça a vraiment changé complètement
mon
aventure.
C'est ton fiston qu'on écoute derrière.
Je suis désolé, il va à la sieste. Je pensais pas que vous l'entendiez, je suis vraiment désolé.
Est-ce que ça fait partie des aléas du direct?
Pour
recontextualiser, tu es chez toi en télétravail.
Exactement, j'ai posé mon après-midi exprès pour toi, mais malheureusement, mon fiston étant malade, il n'est pas à l'école aujourd'hui.
Aïe, aïe, aïe.
Mais on devrait bientôt plus l'entendre.
C'est pas grave, vas-y.
Voilà. Vraiment désolé pour tout le monde. Donc voilà, on a le fait d'avoir monté ce Discord ça a vraiment changé mon aventure, c'est très important, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en parle après. Et c'est ce qui a fait que j'ai changé ma stratégie, et que je me suis dit, le ROI, ok, c'est bien, mais vibrer avec tes potes, fêter les victoires, se réconforter lors des DNP Asia qui sont bien connus de la communauté.
Il y a la danse des gardiens aussi quand même,
c'est clair.
Ligue où il y a la plus grande
faut être bien accroché,
grand turnover de gardiens,
faut être bien accroché quand tu joues l'Asie. Moi je trouve que c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui me plaît, mais je comprends par contre que des managers comme toi, quand je t'entendais sur le Discord, ça me donnait le sourire aux lèvres à chaque fois que je t'écoutais, quand je t'entendais moi l'Asie j'y touche plus.
Mais en même temps j'étais sur toutes les ligues, donc voilà, et pourtant je faisais mes recherches. Là, je me dis non, j'en peux plus. Il y a une petite question. Quand tu as aligné tes cartes, enfin tes line-up, donc tes cartes Asia, tu jouais dans quelle catégorie? Donc AS, Asia et aussi U23 ou pas forcément?
Non, U23, j'ai jamais fait, parce que les GK U23 étaient trop chers pour moi à l'époque. Donc quand je jouais, au début, là, sur la période dont on parle, la fin 2021, par exemple, le plus gros U23 que tout le monde voulait dans sa galerie, c'était Yuya Oki de Kashima. Il valait, je sais plus, un Ether 5, quelque chose comme ça. Enfin, il était vraiment, vraiment cher. Donc les U23, à cause du gardien, je m'y suis jamais lancé. Je suis vraiment resté focus sur l'AS pour les paliers et l'Asie. Je jouais au début, je jouais que ça. Je jouais ces deux compétitions à fond.
Ok, super. Et donc, je t'ai coupé. Mais donc tu as créé alors ce Discord qui s'appelle Namek, c'est bien ça?
Ouais, basé sur l'univers.
Et donc finalement l'aspect communautaire a vraiment pris le dessus. Donc t'as un peu délaissé le côté héroïque et vraiment tu t'es engagé dans la communauté, dans les contacts qu'on a. Tu t'es vraiment attaché en fait aux personnes avec qui tu communiquais sur l'Asia quoi.
Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Comme je te l'ai marqué sur notre petit compte rendu, pour moi c'était entre guillemets au niveau de mon aventure soir, mais de la rentabilité. En fait, le Discord Namek, c'est le début de la fin, en fait. C'est-à-dire, c'est là où ma galerie a arrêté de grimper en flèche, parce que je rendais beaucoup moins, je faisais beaucoup moins d'AR. Et là, je jouais vraiment, vraiment le SO5. Et je pense, n'étant pas un super joueur, même si j'ai un pourcentage de reward qui est pas mauvais, mais je m'estime pas être un bon joueur de SO5. Donc, j'étais bien meilleur en AR pour le coup. Et donc, ma stratégie, au niveau du ROI, là, elle a commencé à être en chute libre, mais je l'ai très, très bien vécu. Pour moi, c'était un super virage. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur le jeu et notamment aux gens qui sont très attachés à la valeur de leur galerie, et je ne critique absolument pas ça, je le conçois tout à fait, moi j'avoue que ça me glisse dessus, mais tranquillement, je suis vraiment serein avec ça.
Et mais en plus à l'époque les cartes prenaient de la valeur, je veux dire, de manière un peu organique et naturelle,
tout à fait,
parce que la demande était bien supérieure à l'œuvre. Donc, voilà. Et ce Discord là existe depuis combien de temps?
Alors de mémoire comme ça, mais c'est fin 2021. On a lancé ça fin 2021.
Et vous êtes dessus, vous êtes combien là-dessus?
Une centaine à peu près, une petite centaine.
Ah oui, quand même.
Une petite centaine. Et j'ai, sincèrement, j'ai des demandes, mais pagaille. Et je peux pas répondre à tout le monde parce qu'on essaye vraiment de faire rentrer au compte-goutte, si tu veux. Je crois que vous faites ça un peu avec le Soul Addict, il me semble. Oui. Il n'est pas ouvert votre Discord non plus, ou je me trompe peut-être?
Ouais, c'est par invitation. De temps en temps, on fait des.
Quand, fait des
quand on
sessions.
A assez de modérateurs, etc., quand ouais. on rajoute des modérateurs, alors on l'ouvre un peu plus. Là, je sais plus, on est un peu plus de 1000 quand même. Mais il y a beaucoup de modérateurs dessus qui sont actifs, donc
bien sûr. Alors que voilà, on va dire que là c'est vraiment Piccolo et moi qui avons créé ça, et lui il est vraiment sur l'aspect technique, gestion. Moi je suis plus dans l'aspect je suis plus dans l'aspect modération du Discord avec tous les membres. Mais sincèrement, mon boulot là-dessus il est assez simple parce que la commu est tellement tellement excellente, enfin je veux dire ils sont tous ultra bienveillants, que j'ai pas grand chose à faire sincèrement. Si j'ai dû intervenir 2-3 fois en un an et demi, c'est le maximum. Donc voilà, donc ça on a créé ça fin 2021, et ça a tout de suite pris beaucoup d'ampleur. On a énormément échangé, et tu vois, même quand l'Asie il se passe rien là sur la trêve hivernale, donc avant la reprise, tu verrais le nombre d'échanges qu'il y a quand même tous les jours sur les transferts. On échange en permanence là-dessus, ça s'arrête jamais quoi en fait. Puis là tu vois, samedi par exemple, ce samedi là on se rejoint en IRL, on va manger ensemble, hein, on va se faire un resto, on va manger ensemble, on s'est vu il y a déjà quelques temps, enfin on essaye vraiment de garder ce lien, ce contact, et c'est vraiment des gens que j'apprécie énormément. C'est vraiment devenu des amis pour la plupart.
Ah, c'est super. Tu m'avais d'ailleurs proposé deux sujets de prédilection qui étaient l'aspect communautaire et évidemment l'Asie. Je t'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, on va gérer les deux, et puis on va discuter et puis mélanger les sujets. Mais comme tu parles de l'aspect justement communautaire, tu dis, je laisse un peu le ROI là pour le moment de côté, enfin pour le moment. Tu disais à l'époque, tu le laissais un peu de côté. Là, maintenant, d'autant plus. Compte tenu du marché qu'on connaît aujourd'hui, qui est malheureusement en chute libre, l'aspect communautaire pour toi est important. C'est ce qui te garde aujourd'hui dans le jeu.
Ouais, complètement. Sincèrement, je pense que, alors, sans même parler de la chute là maintenant, je serais certainement déjà sorti si j'avais pas mon Discord. Clairement, aujourd'hui, des fois, je me dis, mais là, en plus, dans la période actuelle, comment ils font les gars qui jouent tout seuls, qui voient leur galerie, fondre de jour en jour, qui échangent peut-être un petit peu sur Twitter, qui ont 2-3 interactions, mais faut être costaud psychologiquement quoi, je veux dire. Moi aujourd'hui sincèrement, je vois ma galerie, on voit que ça chute.
Alors elle est montée jusqu'à combien ta galerie? Tu
15 éthers, et en valeur d'euros à l'époque quand elle était à 15, de mémoire je crois que ça faisait si je dis pas de bêtises, ça faisait 37 000 euros, quelque chose comme ça, de mémoire, ou 34 peut-être.
Par deux.
À peu près, ouais. Un peu plus.
Mais bon, t'es toujours en positif par rapport à ton...
Par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais dire, peut-être que le discours que je tiens là maintenant, il est du fait que, effectivement, je suis encore un des rares, parce que je pense qu'on est plus très nombreux, à être encore en positif par rapport à mon investissement de départ. Et puis surtout, je suis 100% serein avec... sincèrement, ça tombe à zéro. C'est pas mon investissement qui va me poser un problème. Ça ce qui va me poser un problème, c'est plus de me dire que Sorar va se terminer, que je pourrais plus jouer à ce jeu que je trouve extraordinaire. Mm-hmm. C'est plus ça vraiment moi qui va me où je vais.
Un jeu extraordinaire parce qu'il y a une communauté que t'aimes beaucoup, ou bien c'est
ouais,
le jeu deux, aussi en lui-même.
Les deux sont. C'est une très bonne question. Les deux sont liés en fait. Le jeu en lui-même, moi je l'adore. J'adore faire mes teams. Enfin, je sais qu'il y en a qui éprouvent un peu de lassitude au bout d'un moment, mais moi franchement, quand l'Asie a redémarré, bah, en plus surtout que là, je fais une petite aparté, mais vu qu'il y a 3 mois de trêve et que j'aligne juste une ou deux équipes limitées de temps en temps sur mes joueurs mes joueurs américains où j'ai un petit peu de joueurs tchal, j'arrive à faire une petite limitée juste parce que je suis drogué, tu vois, j'ai besoin d'aligner une équipe quand je peux de temps en temps. Mais je veux dire moi, enfin, et la commune Asia qui sont full Asia comme moi, dis-toi que pendant 3 mois on fait rien, on peut pas aligner. Donc autant te dire que quand ça arrive, waouh, mais c'est la folie. On est, enfin, nous en fait on se met vraiment dans le dur, tu vois, pendant 3 mois, et après allez, c'est reparti.
Faites le dos rond, allez hop.
Exactement, mais on attend que ça. La reprise, enfin, tu verrais, nous c'est feu d'artifice hein, dans le Discord. Hein. Ça y est les gars, c'est reparti. Il y a tel match, enfin, on est à fond. On se lève, en plus tu le sais, on se lève à 6h pour regarder les matchs. Alors, faut être sacrément motivé hein, quand tu joues.
Samedi dimanche compris, ouais. Systématique.
Alors moi généralement bon j'ai mon équipe de cœur, enfin une de mes équipes de cœur, parce que j'en ai deux que j'aime bien, mais c'est Yokohama Marinos. J'essaye de regarder ouais quand je peux tous les matchs. Après non, je choisis l'un ou l'autre. Et maintenant en plus au niveau de la G-League, il y a 4 matchs qui sont en rediff sur YouTube. Donc ouais. ça c'est top hein, franchement, plus en super qualité, parce qu'avant je les regardais sur généralement sur Winamax ou Betclic. Là maintenant je peux les regarder directement sur YouTube, et là je me fais un replay tranquille hein. Je me 9h, 9h30, je fais mon petit replay café croissant et ça passe crème.
C'est mais, cool. Mais c'est, et ta voilà. Deuxième équipe, c'est laquelle?
J'aime beaucoup. Alors ils ont une année très difficile l'année dernière, mais j'aime beaucoup Vissel Kobe. Alors là, tout simplement, juste parce que c'est les premières cartes que j'ai achetées en rare Asia. J'ai acheté que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai acheté Otaru Yamaguchi. J'avais Sergi Samper. J'avais.
Qui revient de blessure, j'ai entendu.
Qui revient de blessure là, il doit attaquer là à la reprise. Et j'avais un joueur que j'adore qui est parti au Celtic, Kyogo Furuhashi, qui est un des meilleurs attaquants Asia. Bah ça faisait partie aussi des gars qui m'ont fait du mal quand ils sont partis quoi. Voilà. J'avais pas l'habitude. Je disais tiens, c'est bizarre. Du jour au lendemain il part, j'ai pas vu de nouvelles. il m'a pas prévenu.
mais lui pour le coup il perd toujours, parce qu'il y en a d'autres, c'est pas la même chose. C'était qui là qui cartonnait à cette époque là c'était Mitom, non Mitom,
ah non, bah, dis-moi pas lui, ah non, attention, non,
l'autre
ennemis,
Tanaka, Ao Tanaka.
Ah oui.
Qui joue maintenant, je pense, ouais. En deuxième division à Düsseldorf ou un truc comme
exactement.
Ça.
Exactement. Ouais,
et lui,
tout à fait.
Il cartonnait, mais.
Ah, il était fort.
Il joue à Kawasaki, c'est pas ça?
Ouais, à Frontal, exactement. Ouais,
à
Frontal. Tout à fait.
Ah, lui,
très
il faisait
fort.
Des scores de malade. Il était U23, je m'en rappelle. Coûtait très très cher. Et là, là, son scoring, il est vraiment tristoun.
Bah, clairement.
Non, Mitoma, c'est vraiment pas le bon exemple. Il est venu à l'Union, il était un peu sur le banc. Dès qu'il a joué, il a cartonné. Et puis là, à Brighton. D'ailleurs, je l'ai pris pour match.
Ah, alors là, très bon achat. Tu vas faire plaisir à un paquet de monde du Discord, parce que c'est on a un
j'adore,
gros fan
j'adore
club
le
de
voir jouer.
Thomas. Enfin, ouais. Je sais pas si t'as vu, il y a des news, enfin des rumeurs qu'il enverrait à City. Hein.
Ouais, mais là ça m'arrangerait pas parce qu'il y a trop de turnover.
Ouais, c'est vrai, c'est pas
il y a trop
vrai.
De turnover
mais,
à City.
Mais c'est pour dire qu'un club comme City s'intéresse à lui. Donc,
ouais, c'est énorme.
Ça donne une idée du potentiel de ce joueur qui est juste exceptionnel, qui est un régal à voir jouer. Donc, mais oui, en Asie, non, il y a des vraies pépites. Et juste pour finir, tiens, dans les erreurs, elle était belle celle-là aussi, tiens, je viens d'y penser. J'avais Furuhashi, je cartonnais tout avec lui, enfin franchement je faisais des belles perfs. Il part, et par qui je le remplace? Ado Onaiwo, qui part 6 mois après à Toulouse.
Tout à fait.
En D2 non couverte. Voilà le style le style d'erreur qu'on arrive à faire quand on s'intéresse pas assez au départ aux joueurs qu'on achète. Voilà, c'est des erreurs.
Ouais, mais après
s'ils
performent bien, tu vois, c'est ça un peu le souci avec les championnats challenger aussi et asiatiques, c'est que t'as des petites t'as plein de pépites dedans, et puis quand ils sortent du lot, c'est génial pour le SO5, mais en général ça dure pas. Ouais. Parce qu'ils partent ensuite dans une grosse équipe ou dans une petite équipe. Là, c'est le cas pour, par exemple, Toulouse, qui était en Ligue 2, qui n'était pas encore couverte. Et puis, tu as des Coréens aussi qui partent pas mal dans les pays du Proche-Orient aussi,
où
ils ne sont pas couverts non plus. Et là, c'est évidemment compliqué. C'est pour ça qu'en Challenger, ailleurs. Là, maintenant, je suis beaucoup plus... Depuis mon retour, là, je suis beaucoup plus calme. Je vais plus chercher des goats, ouais, à part un Tadic, on sait. Enfin, quoique, il y avait des rumeurs. Il a failli partir, apparemment, durant le mercato d'hiver, là, ce qui m'étonne très, très fort.
Tadic
Mais quand tu prends des vieux, en général, bah, tu sais qu'ils vont, ils vont terminer en challenger et plus aller dans des grosses équipes des cinq ligues principales. Par rapport à, justement, l'aspect communautaire, comme on a abordé le sujet. Est-ce que tu dis, voilà, vous voyez, comment est-ce que vous faites? Vous êtes, je présume que vous n'êtes pas tous de la même région. Vous avez un noyau dur, trop éloigné les uns des autres.
Non, il y en a un petit peu partout en France. Maintenant, c'est vrai que c'est pas du tout fait exprès, mais aux alentours de Lyon, on a pas mal de monde. On a des gens de Grenoble, de Chambéry, donc c'est vraiment pas très loin. Il y a des gens de Lyon intramuros. Donc en fait, moi déjà, je propose, j'ai dit, voilà, ça vous dirait qu'on se rencontre. Il y a beaucoup de ouais, il y a pas mal de managers qui répondent à l'appel. Et puis l'idée, c'est qu'on arrive aussi à tourner un petit peu. Et je sais qu'on en a dans le sud-ouest. Forcément, il faudrait qu'on se voit aussi sur Paris. Piccolo est de la région parisienne, donc faut qu'on se rencontre là-bas. Voilà, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Mais pour l'instant, les rencontres qu'on a fait, c'est beaucoup sur Lyon, parce qu'il y a une grosse commu Sorare et notamment Asia qui est de Lyon. Il y en a beaucoup qui jouent avec The Nook, tu sais, organise des fives sur Lyon toutes les semaines. Et il y en a énormément qui vont jouer avec lui au five. Donc, il y en a aussi que j'ai rencontré là-bas.
Ok. Et toi, t'as déjà joué là-bas au five?
J'en ai fait un, mais voilà, tu sais, Mehdi, 40 ans. Les deux hanches fracassées par la boxe, je t'avoue que quand je fais un five, j'ai du mal à en mettre. Vaut mieux que je reste au sport en décharge maintenant.
ouais, c'est vrai que c'est chaque chose en son temps, tu vois.
Ouais, exactement. Je laisse les jeunes entre eux.
Et comment est-ce que vous fonctionnez? Donc là, vous mettez évidemment vos informations. Je présume que vous départagez un peu les rôles. Il y en a qui sont un peu plus sur la Corée, certains clubs en question. Comment est-ce que vous faites ensemble?
T'as très bien compris le système. T'en as qui mangent un peu sur les deux tableaux, quoi, qui aiment les deux ligues. T'en as qui sont très spécialisés. On en a, j'en vois deux là dans ma tête. Là, ils sont très spécialisés J-League. Donc là, ils sont très malheureux là avec la ref, le non renouvellement de la licence d'ailleurs, puisque maintenant dans le pool de Reward Asia t'as plus que des joueurs Cali, donc c'est difficile pour eux, mais on a des gens très spécialisés J-League, d'autres vraiment Cali à fond, et puis après t'as vraiment même des mecs qui se spécialisent sur un club en particulier, et donc en gros ça poste des news, toutes les news qui sortent, donc Twitter, Insta, franchement on a une réactivité qui est assez incroyable, hein. Enfin, je vois des trucs sortir sur le Discord, ça sort à une vitesse, on est très souvent au courant avant le reste de la meute, quoi. Ça va très très vite. Et donc ça nous permet d'avoir un bel avantage concurrentiel. On a des Piccolo par exemple en K-League, tu verrais ce qu'il est capable de nous sortir. Il nous dit tel mec est dans l'avion assis à telle place, il atterrit à telle heure dans telle ville. Enfin, tu vois des trucs, tu vois ça nulle part ailleurs. Voilà, donc on a des...
Ça, c'est grâce au compte Insta des joueurs, certainement.
Ouais, exactement. Et il est sur tous les comptes Insta. Ils sont même, je les chambre souvent avec ça, on en rigole beaucoup. Ils ont tous les comptes Insta des femmes de joueurs. Il suffit qu'il y en ait une qui like le club de je sais pas qui, et tu peux être sûr que ça va bouger. Ça va bouger
là-bas,
dessus,
c'est
quoi.
Énorme.
Donc, voilà. Non, ça va, ça
c'est
va.
C'est
une armée
d'espions.
Ouais, c'est exactement ça. On a FC Val qui est assez aussi, qui est très actif sur Twitter, sur la Corée notamment, qui connaît beaucoup de choses. Il nous transmet énormément d'articles de journaux traduits directement de là-bas. Enfin, voilà, on est assez pointu, hein, sur cette partie-là. Donc, ça nous permet de faire des bons coups. Là, récemment, ce qu'on avait eu qui était assez sympa, notamment sur les, vu que t'as très peu d'infos et que c'est une superbe barrière à l'entrée. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est top aussi à ce niveau-là. C'est que les gens viennent pas, enfin, ont du mal à venir sur l'Asie parce qu'effectivement, les infos sont difficiles à trouver. Nous, à notre niveau, vu qu'on arrive à récupérer des infos souvent un peu en avance, ça nous permet de bouger un petit peu avant tout le monde. Et, notamment, tu vois, pendant la trêve, là, il y avait beaucoup de questionnements, notamment sur les GK, ce qui allait se passer, et si tu prends l'équipe du Consadole Sapporo, ils ont on l'appelle le papy Sugeno, qui a 38 ans. Ils ont fait revenir un gardien qui était en Corée, qui a été formé à Sapporo, qui s'appelle Gu, et ce gardien là devait prendre la place, tout le monde l'annonçait en tant que titulaire, et c'est vrai que même nous, hein, on était quasiment sûr que ça allait être lui, et puis en fait on a réussi à avoir des news, des compos un peu en avance, notamment pour la prépa, et en fait il s'avère que on on tombe sur le on voit que c'est Sugeno qui joue dans les buts, quoi. Donc on s'est dit waouh, c'est un délire, sachant que tout le monde n'attend pas ça. Son prix était hyper bas, Gu était hyper haut, et en fait bah là toute la commune à mec, quand tu regardes quand tu vas sur la courbe de Sugeno, bah tu vois plein de petits points verts, parce qu'en fait souvent il y en a beaucoup, on met une petite planète verte, un petit point vert comme la planète Namek. Donc souvent bah tu vois la courbe, tu vois une petite bougie et c'est plein de petites planètes vertes. Et puis bon bah tout le monde a pu faire de l'air et se faire plaisir quand le premier match chez lui qui a été aligné. Malheureusement il s'est blessé rapidement après au mollet, mais en tout cas voilà, on avait la bonne info, quoi. Donc ça c'était cool. Et l'année dernière c'était encore pire, on avait fait ça sur deux gardiens, sur Hayashi, donc qui était pareil un vieux papy qui était bench toute la saison 2021 sauf la fin de saison, et tout le monde annonçait Keisuke Osako qui est maintenant le titulaire indiscutable. Mais en début 2022, bah, tout le monde pensait que ça serait Osako. On le voyait même sur toutes les affiches de présentation dans la ville d'Hiroshima. Et bah, avec Piccolo, nous, l'info qu'on avait, c'était que c'était le papy qui allait démarrer. Ouais. Et donc, on a pris de la SR à 0,1, enfin, vraiment des trucs à 0,1 à l'époque sur une SR GK. C'était vraiment pas cher, enfin, hein, si je te remets dans le contexte. Et bah, Sugeno a démarré. Pareil, il s'est blessé aussi. il a jamais retrouvé sa place. Osako a parfaitement géré l'intérim. Mais en tout cas, la prévision était bonne. Voilà. Et on a eu ça sur ça et sur Kashima aussi avec Kun Suntae qui a eu la place de Yuya Oki bah, quasiment toute la saison. Et pareil, on avait bougé pour des prix super intéressants avant le début de saison, donc ça nous a permis de faire de bons petits coups en AR notamment.
Ah ouais, non mais là c'est ça fonctionne directement, comme tu dis, c'est vraiment la niche de la niche, très compliqué, ouais, d'avoir des infos, et quand t'as des infos comme ça, bah ouais, il y a moyen vraiment de bien se gaver. Je me rappelle que j'avais gagné l'année passée un gardien U23, ouais, qui était espoir et qui était le remplaçant de Sugeno. J'ai oublié son nom.
Qui était espoir remplaçant de Sugeno.
Ouais. Un U23. On m'a dit, garde-le l'année
jouera,
prochaine, ça sera
celui. Il jouera.
Quoi ça ?
On t'a dit garde-le, l'année prochaine, il va jouer, c'est ça ?
Ouais, ouais, et puis j'ai viré. J'ai rapidement viré.
Ouais, bah en fait, si tu veux, je pense que ce que t'apprends en jouant l'Asia, enfin comme toutes les divisions, hein, je pense que le but, c'est au bout d'un moment, c'est d'arriver à... Déglingo l'avait très bien dit sur ton podcast, et je suis 100% d'accord avec toi. Le but, c'est d'arriver à rentrer dans la tête un peu des entraîneurs et puis de la mentalité. Je veux dire, au Japon, être vieux, c'est pas un problème. Tu vois, t'as des défenseurs, ils ont 36, 37, enfin en Ligue 1, t'en as aussi, mais je veux dire, là-bas, c'est au contraire, t'acquiers de l'expérience. Je veux dire, c'est pour eux, c'est pas un problème de garder un gardien qui a plus de 37 ans, c'est pas un souci pour eux, quoi. Et en fait, nous, malheureusement, on a trop tendance à penser avec notre prisme occidental. En disant, ouais, bah, il y a le nouveau, il a bien décollé, bah, l'ancien, c'est bon, ils vont le mettre au placard et tout. Non, au Japon, ils ont un grand respect pour les gars qui leur ont apporté, voilà, qui les ont aidés à se développer, et ils dégagent pas c'est pas le style de la maison de dégager un gars comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que le coup de Sugeno, par exemple, cette année, même si quand on a vu l'info sortir, franchement, on a eu un moment, tu sais, de recul, on s'est dit, waouh, c'est quand même bizarre, l'autre il revient, il a été formé au club et tout, et puis après en discutant avec Piccolo en privé, on se dit ouais, mais en fait il a fait une super saison, c'est quand même grâce à lui s'ils sont maintenus, s'ils ont assuré, est-ce qu'ils vont le dégager comme ça? Et en fait on se dit bah ouais, non, ça ressemble pas à la mentalité japonaise, quoi. Et ça, en fait, c'est vraiment à prendre en compte quand on joue une ligue comme ça. C'est bien, faut enlever notre prisme occidental, voilà, c'est très important. Ouais. On
puis, y réfléchisse cette pas de la même manière que nous. De respect aussi qui est
complètement
très présent. C'est un peu la même histoire, c'est comment il s'appelle ce gardien là, Higashi Gushi là, ou enfin qui avec Kosei Tani là, c'est pas lui qui
Ah oui, oui, je reconnais, Higashi Gushi, oui, ok, ça marche,
ouais, c'est ça, hein.
Le gars, ouais, c'est ça, vu que tu l'as dit en deux mots, je cherchais nom prénom, je dis
Non, je devais mettre les lettres à l'endroit, en fait,
ouais,
Higashi Gushi, voilà.
Non mais il a un prénom difficile, il a un nom difficile, ouais, pardon, effectivement, oui, c'est le gardien du et tout à fait, c'est un très bon exemple, le gardien du Gamba Osaka. Bah l'année dernière il a été blessé une bonne partie de la saison, t'avais le numéro 2, donc Junichi Shimori, qui a assuré l'intérim, qui a fait, pour le coup, qui a été vraiment pas mal du tout. Mais quand l'autre est revenu, là-bas, c'est une vraie star. Il les a sauvés plusieurs saisons de suite. Bah, il a repris sa place naturellement. Et là, en début d'année, pour le coup, tu vois, voilà, début d'année, j'avais pas bougé sur l'un des deux gardiens. Mais pour le coup, si j'avais eu une pièce à mettre, pour le coup, j'aurais pas mis Tani. J'aurais mis Higashiguchi titulaire en début de saison. Pour moi, là, par contre, je me serais fait avoir si j'avais bougé sur Higashiguchi, parce que c'était une vraie surprise que ça soit pas lui le titulaire. Et puis bon, la Gamba fait un début de saison vraiment difficile, donc ils ont mis Tani au début. Puis là, ça a tourné. Bah, à voir ce que ça va donner. Là, sincèrement, c'est une équipe où j'irais pas sur les gardiens. À mon avis, il va y avoir un turnover un peu toute la saison.
Ouais, parce que Kosei Tani, il était quand même, il est sélectionné en équipe nationale, non?
C'est pas... Ouais, ouais, tout à fait. C'est un jeune, c'est et tout. Fou, mais Mehdi, l'année dernière, Gamba, ils sont ultra relégables, enfin ils sont vraiment dans le fond du trou toute la saison. Higashiguchi revient de blessure, il les remonte à lui tout seul. D'ailleurs, regarde son scoring à ce gars-là sur la fin de saison.
J'ai regardé,
c'était il tape des 80, 85, des clean sheets improbables. Hein. C'est lui qui les sauve, hein, clairement. Ça, ça prend en compte dans la mentalité des Japonais. C'est pas parce que t'as le petit jeune qui revient, comme tu dis, il y a ce côté respect qui est très important. Et je suis pas vraiment de très près le Gamba. Faudrait demander à Will Smith qui les adore. Mais je pense pas que Kosei Tani je pense pas qu'il fasse des siennes ou des gros problèmes comme certainement tu mets le même cas en Ligue 1. Je pense que t'en entendrais parler tous les jours dans les journaux, quoi.
D'ailleurs, je dois faire mon mea culpa parce que j'ai dit au début du podcast des glingos, deuxième spécialiste, mais c'est vrai que j'ai eu Will Smith qui, mais lui, Will Smith, il est un peu partout aussi, mais c'est vrai qu'il est, il est aussi très porté sur l'Asie.
Ah, il adore l'Asie. Ouais, j'échange beaucoup avec
Will Smith,
lui.
Tu m'excuseras.
Bah après, j'allais juste te dire, t'en as d'autres, hein, même je parle des fois avec Fields, il adore l'Asie aussi, hein. Il est pas spécialisé là-dedans, mais il adore l'Asie.
Il y en a beaucoup, hein, qui aiment l'Asie, hein, sans être vraiment grand spécialiste. J'ai retrouvé le nom du fameux gardien U23 qui était le remplaçant de Sugeno et qui avait fait quelques matchs en fin de saison.
Ouais.
C'était Kojiro Nakano.
Ah oui, d'accord.
Et lui, il joue maintenant en deuxième division.
Ça se fait beaucoup, ça, hein, de les envoyer en deuxième div.
Et il est remplaçant en plus.
Ouais,
je l'ai pas gardé.
Ouais, non, mais c'est sûr. C'est vrai que des fois, enfin, ça dépend de ta stratégie, c'est toujours pareil. Il y a des joueurs, tu peux tenter, hein, en étant long terme ou quoi, mais il y a des fois, faut vraiment être très très long terme. Regarde, je te donne un autre exemple d'un joueur qui est très connu des managers Sorare, et il y en a, entre guillemets, ça fait 3 ans qu'ils l'attendent, ce gars-là, et il vaut une blinde encore. C'est Zion Suzuki, des Urawa Reds, pardon. Bon, bah, t'as pareil, t'as un papy devant qui lâche pas le poste, et pourtant, Zion est annoncé depuis longtemps comme étant une pépite du Japon, et ce gars-là, bah, t'as des managers, ils l'ont payé une fortune en se disant ça y est, ça va être lui. Pareil avec le prisme occidental, il va prendre la place. Bah, l'autre, il est toujours là. C'est moi, ça fait 3 ans que je suis sur, enfin 2 ans et demi que je suis sur Sora, il est toujours là, le type, il lâche pas.
Ah oui, il est encore jeune en plus, donc il est,
mais oui,
il
bien sûr,
encore eu 23 pendant
quelques... Mais t'entends partout, ouais, ça va être lui. Est-ce que enfin, moi je voyais les questions qui étaient posées sur le Discord FR. Ouais, vous pensez que Zion cette année c'est la bonne et tout, et en fait tout le monde l'achète en plus très cher. Ils attendent,
ouais, je vois, puis... les dernières ventes c'est 1 000 euros, quoi.
Ouais, bah ouais.
Alors bon, là, avec la chute, la carte la moins chère est à 0,35 Ether, peu moins de 600 euros. Mais bon, ça reste quand même élevé.
Bien sûr,
pour un joueur qu'on ne sait pas utiliser pour le moment. Ouais. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter au niveau communautaire avant qu'on attaque vraiment? Je vais te poser des questions, évidemment. Pourquoi l'Asie, etc.
Pourquoi l'Asie?
Au niveau communautaire, si tu veux encore ajouter quelque chose.
Non. Déjà, je te remercie infiniment m'avoir laissé le temps de parler de ça, parce que, comme je te l'ai dit, c'était important. Voilà, moi, ce que je peux conseiller à tout le monde, bah, c'est d'avoir une communauté aussi bienveillante que la nôtre, parce que c'est vrai que ça change complètement la vision qu'on peut avoir de Sora, et en fait on vit vachement mieux les montagnes russes, parce que déjà, bah, on se soutient entre nous, et puis parce que ce que je dis est valable que si vous êtes parfaitement tranquille dans votre esprit avec votre investissement, sinon bah effectivement ça a pas de sens. Mais c'est vrai que le fait d'avoir toute cette communauté hyper soudée autour de soi, bah en fait il n'y a pas grand chose qui peut vous atteindre, quoi. Vous êtes plutôt tranquille. Le seul risque, c'est que Sorare coule complètement, tombe à zéro, et que vous puissiez plus jouer au jeu. Mais sinon, franchement, moi je prends autant de plaisir maintenant qu'il y a.
J'y crois pas trop. Je peux pas y croire et j'y crois pas trop non plus. Mais c'est vrai que le fait d'être soudé. Et moi, quand j'avais tout vendu avant de rentrer, je suis re-rentré assez rapidement.
Ouais.
Vraiment, c'est l'aspect communautaire, moi, est aussi très très important pour moi. Comme tu dis, je me suis fait des potes autour. J'aime bien recevoir des messages. Encore hier, j'en ai reçu 2 comme ça de personnes, mais vraiment qui cherchaient rien, tu vois. De temps en temps, j'ai des messages, puis je réponds, puis elle me dit ouais, mais tiens, j'ai des questions à te poser au niveau stratégie, machin. Et là, c'était vraiment des messages désintéressés en disant bah écoute, j'ai découvert ton podcast, j'adore ça, et c'est vrai que ça fait plaisir, parce que finalement je le fais de manière totalement bénévole, et je le fais avec plaisir, et voilà, et avoir ces discussions aussi toutes les 2 semaines avec des managers qui sont passionnés et sympathiques pour l'écrasante majorité, c'est gay. Et puis de temps en temps, si on est en France, ils sont en Belgique, si on est autre part, on peut aller boire un verre ensemble, se conseiller des bonnes bouteilles de rhum, à 2 managers en particulier. Donc
d'accord.
C'est vraiment l'aspect communautaire vraiment a pris le dessus.
Ouais.
Mais comme tu dis, il faut vraiment être tranquille tranquille avec avec son invest, avec l'argent qu'on a mis dedans, parce que quoi qu'on en dise, ça reste quand même un jeu d'argent malgré le développement du gameplay gratuit, quoi.
Non, mais totalement. C'est sûr que moi, le premier, je serais très content si, et puis notamment, madame arrêtera de me prendre la tête si je lui dis on part en vacances grâce à la vente de cartes soir. On est bien d'accord. Mais Pour moi aujourd'hui, l'argent que j'ai mis sur Sorar, je suis prêt à la perdre. C'est pas une fin en soi. Voilà, je veux. Ouais. C'est vraiment.
T'es très à l'aise, t'es tranquille.
Ouais, c'est comme un hobby qui coûterait très cher. Voilà, tu vois, je vois ça comme. Ouais. Je fais pas de golf, mais je me dis, voilà, si je joue au golf et que je devais m'équiper, bah, tu vois, je vois ça comme ça. Voilà, tu vois,
deux ans d'abonnement au golf, plus ou moins.
Voilà, c'est aujourd'hui comme ça que je vois ça. Maintenant, si le sujet, on en parlera, je pense, plutôt à la fin, mais si le projet se pérennise et va où moi j'espère qu'il va aller, bon, bah, je pense qu'on devrait finir par retrouver nos billes, quoi.
Mais, certaines. Voilà. Alors, bon, l'Asia, t'en as parlé en long et en large, mais pourquoi, ouais, ok, c'était la niche, etc., mais ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points aussi vraiment qui t'ont convaincu d'aller dedans pour le SO5?
Ouais, alors, donc, le premier, on en a parlé, pour moi, c'est surtout quand je suis rentré à l'époque, c'est toujours pareil, on parle de ça maintenant où tout a dégringolé, mais quand je suis rentré, le rapport qualité-prix, pour moi, il était quasiment imbattable. Après, t'avais peut-être la MLS où tu pouvais retrouver des joueurs un peu sensiblement pareils, mais je veux dire des joueurs.
C'était moins cher l'Asie. L'Asie,
c'est clairement. Enfin, pour moi, je me disais waouh, mais je regardais, je ponçais SD, je me disais mais ouais, quand tu sors les rankings, t'as des mecs qui se plaçaient dans les 10 premières places, mais ils valaient 3 fois moins cher que tout le monde. Bon, je disais mais ils sont blessés, qu'est-ce qu'ils ont? Bah non, ils sont en Asie et tout le monde flippe d'aller en Asie. Ah bon, je vais y aller en tout cas. Donc voilà, j'avais pris des exemples là, tu vois, comme ça, mais bon, là pour le coup, ça c'est récent, mais j'ai pris des mecs que tout le monde connaît, hein. J'ai pas été chercher des gars dans des clubs un peu moins connus. Tu prends Sho Sasaki à Sanfrecce en défense par exemple, donc il joue à gauche ou au milieu dans une défense à 3, il fait un A de dingue, il a un A de 30, il est jamais blessé. Je me suis amusé à regarder la dernière game week qu'il a raté, c'était la game week 256, enfin tu vois, faut remonter un petit peu pour une game week, donc autant dire que le gars est jamais blessé. Et aujourd'hui, pour tout dire, je l'ai même acheté là entre midi et 2 à un collègue du Discord. C'est un gars qui vaut 0,3. Quand tu vois son scoring et son L40, c'est difficile d'avoir un comparatif avec d'autres divisions. Il est hyper intéressant. Et pour le coup, on parle de DNP, mais lui, il est ultra safe. Alors, il suffit que je dise ça, tu vois, qu'il va se faire les croisés, mais sinon, ce gars-là est plus que safe. Il fait de super scoring en permanence. Bon, aujourd'hui, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Ça, j'ai pris un def. Au milieu, tout le monde le connaît. T'as Singino. Alors, il a changé de club cette année. Là, je pense qu'il faut le temps qu'il s'adapte un peu à Incheon, c'est un peu plus compliqué, mais il était à Pohang là, il était capitaine de Pohang.
Ah, le gars, il tapait score de fou.
Bah attends, moi je l'ai eu toute l'année dernière, ça a été ma carte la plus rentable. Il faisait 42 AA. S'il faisait un DS, c'était 100 automatique. Bon, sincèrement, à un moment, je le suivais, je m'amusais. C'était un moment où Kimmich était très en forme. Et sans déconner, il était aussi fort que Kimmich, mais il valait 10 fois moins. Enfin, tu vois, je veux dire, je me disais bon, t'as des gars comme ça, franchement, ça vaut le coup. Et puis, en attaque, tout le monde le connaît. Mais alors lui, pour le coup, il est moins safe, il se blesse souvent. Mais c'est Zinia, quoi. On en a parlé hier sur Twitter, t'en as parlé. Il y a Gallo qui l'a pris à 0,37. Mais malgré tout, c'est Zinia. Regarde son scoring, 0,37. Mais où t'as un attaquant à 0,37 qui fait un scoring pareil?
Ouais, quasiment décisif à...
tout
à
match.
Par contre, j'ai une petite question. J'ai vu son dernier match, il faisait quand même banquette. Bon, il est monté les 30 dernières minutes, il a marqué.
Ouais, dans le Discord, on va dire, on suppute que parce que ça jouait contre John Book et l'année dernière ça avait fait la même chose en fait sur ce match là donc est-ce que Daegu, il y a plusieurs choses hein, qui se disent, soit il est super fort ce joueur, et enfin en tout cas par rapport au niveau de la Corée, et donc il prend pas mal de coups, donc est-ce qu'il avait pris beaucoup de coups le match d'avant, il avait besoin d'être mis au repos, est-ce que vu que John Book c'est quand même la grosse équipe avec Ulsan de la Corée, est-ce que Daegu avait fait un peu l'impasse sur ce match là en disant on va pas risquer de le blesser, on en a besoin plus tard dans la saison. Mais sincèrement, c'était une surprise. Moi quand j'ai vu en début de match qu'il était bench, même moi j'étais assez surpris. Je pensais même qu'il était blessé, parce que c'est quand même un joueur qui se blesse assez régulièrement. Là-dessus c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, il a suffi de 20 minutes. Il a mis 20 minutes et il a encore DS, quoi. Et donc c'est un joueur qui est vraiment très 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 fort. Donc ça, la partie ROI, voilà. Donc bon, pour moi c'était la partie rapport qualité-prix qui était pour le SO5. Je trouvais que c'était imbattable, top, ouais. L'Asie. Imbattable, ouais. Je m'étais mis aussi le côté un peu exotique entre guillemets, mais surtout le fait que qu'on ait un manque d'informations sur les compos, les blessures et tous les transferts. En fait, c'est une magnifique barrière à l'entrée. Et bah, après, t'as des gens, entre guillemets, comme toi, tu le dis des fois, ouais, l'Asie, j'y touche pas. Le nombre de fois où j'entends l'Asie, c'est BNP Land, ouais, on n'a pas d'infos. Bah, en fait, ça, pour moi, enfin, en tant que Dirco et.
T'aimes bien entendre ça, quoi.
Bah oui, bah, en tant que stratège, je me dis, waouh, je me dis, là, j'ai un truc, faut que je creuse, quoi. Si je deviens, si j'arrive à acquérir suffisamment de compétences là-dedans où personne veut aller, je vais avoir un vrai avantage concurrentiel assez important. Ça vaut le coup de, creuser ça. Alors, par contre, bah, j'ai démarré de zéro, j'avais aucune connaissance. J'avais jamais suivi un match du Japon avant de m'intéresser à Sora, donc là pour le coup j'avais vraiment du taf. Mais bon, voilà, quand on se met dedans tous les jours régulièrement, sincèrement ça se fait, hein, ça finit par rentrer. Et c'est vrai que voilà, l'aspect barrière à l'entrée quand même pour moi était super important, parce que je voulais pas y mettre non plus des milliers, des cents. Et aujourd'hui tout le monde était capable de savoir que tel gars en Europe dans une grosse équipe va être titulaire. En Asie c'est un petit peu plus compliqué, donc moi c'est, voilà, c'est le deuxième point.
T'as pu limiter la casse des DNP, t'as une idée du pourcentage?
Ouais, j'en ai aucune idée, mais on va dire qu'on, déjà bah, tu le dis très bien tout le temps, Mehdi, et j'applaudis dès demain quand tu le dis. C'est déjà regarder les matchs, ça vous donne quand même des grosses idées. Voilà, vous voyez qu'un gars il s'est tenu la jambe un peu, et pourtant il est sorti, il est pas marqué blessé, mais il traîne un peu la patte en sortant. Bon bah déjà ce gars là je vous l'alignez pas, enfin voilà, de base. Bon, si tu regardes pas le match, c'est pas marqué sur SD, le match d'après bah tu te prends un DNP, enfin tu vois, c'est des grands classiques, mais en même temps on le voit tout le temps, quoi. Et sincèrement, les DNP, à part mon Némésis, que sur mon Discord tout le monde se moque de moi avec lui, à part Kevin Muscat qui est l'entraîneur de Yokohama, qui m'a tué je ne sais combien de podiums en Asie, parce que lui pour le coup il fait vraiment tourner très fort et il est imprévisible. Mais à part lui, sincèrement, t'arrives quand même à avoir des infos, hein, des idées de compo, des interviews de coach, des interviews de joueurs aussi. Enfin, on arrive quand même à avoir des infos. On se plante comme tout le monde, hein, ça nous arrive d'avoir une belle surprise. Là, depuis le début de saison, j'en ai pas une en tête. Si, j'en ai eu une là qui m'a bien. Bah, elle m'a plombé ma cape 240 rare. C'était Jun Amano qui s'était blessé aux côtes, mais on a su qu'il s'était blessé aux côtes après le match où il a été DNP.
Ah oui. Okay.
Voilà.
Ouais.
Mais à part ça, souvent on a les infos avant. Souvent.
Et d'autres raisons.
Ouais,
la culture, je sais pas.
J'allais y venir, c'est très important pour moi. Effectivement, la culture japonaise, ça m'a complètement fait délire. Bah déjà, un truc tout bête, mais mon film préféré, c'est Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. J'adore ce film. Ouais. Je le trouve magnifique. La BO est top. Enfin voilà, je trouve ce film génial. Et puis j'adore ce côté respect que les Japonais peuvent avoir. Pour moi, c'est des valeurs vraiment. Les valeurs qu'ils mettent en avant, moi, ça me parle dans mon quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui a été aussi important pour moi. Je me souviens, j'avais regardé un des quand j'avais acheté les cartes de Kobe, j'avais regardé un match donc de la saison 2021. Alors ils ont fait une très belle saison, je crois qu'ils avaient fini 3e. Mais il y a un match où ils ont pris une tôle à domicile, et à la fin du match, ben, tu les vois arriver vers leur public, tous en ligne, et ils commencent à s'incliner devant leur public, et t'as tout le public qui les applaudit et tout. Là, je me suis dit, ouais, mais j'aime trop ce pays, quoi. C'est en France, on leur a acheté des tomates, voilà, les gens seraient partis avant la fin du match. Enfin, là-bas, c'est pas du tout cette culture-là, et je trouve ça, voilà, moi pour moi en tout cas, c'est important, et la culture japonaise. Bah, je trouve ça génial. Et puis en plus, bon, bah, j'ai baigné dans le. Je suis la génération Club Dorothée, hein, donc on a baigné dans les mangas.
voilà, les animés.
Bah, dans les animés, exactement. Donc, voilà, il y a plein de dessins animés qui me parlent et que j'adore, donc qui viennent tous de là-bas. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore qui m'a fait dévier ?
Il y a pas mal d'arguments.
Ouais, il y avait pas mal. Bah, il y avait le petit côté aussi. Alors ça fait partie des barrières à l'entrée, mais ce côté justement, tu sais, un peu comme une bête féroce dure à apprivoiser, tu vois, le côté un peu difficulté à. Moi, quand je fais un jeu vidéo, par exemple, j'aime bien mettre la difficulté au max. Je galère, mais je finis toujours par y arriver. Au bout d'un moment, tu finis par apprivoiser le truc. Et ben là, ça me faisait un peu ce truc-là, tu vois. Je me suis dit, bon, plus c'est la galère, ça va être difficile. Je vais prendre des coups, mais je vais finir par apprendre et ça va rentrer. Voilà, moi, c'est un petit truc aussi. J'ai ce petit côté un peu maso aussi de mon côté.
T'es parti en fait au Japon depuis
Non, j'y suis pas allé. Par contre, c'est mon top one list. Ma femme veut absolument qu'on aille côté Amérique du Sud.
Un très bon choix aussi.
Voilà, je sais que t'aimes beaucoup là-bas aussi, effectivement. Donc elle veut qu'on aille découvrir ça. Mais je suis quand même je pense que je vais avoir le lead, parce que je la saoule trop, pour qu'on aille qu'on se fasse un beau voyage au Japon. Et puis là, c'est vrai qu'en plus on a reçu il y a assez peu de temps, on a un des gars du Discord du noyau dur là qui a fait un voyage de 2 semaines. Ah, il nous a fait un super reportage photo avec plein de choses à visiter, à manger. Enfin, et franchement, il m'a mis la chauffe, faut dire ce qui est quand j'ai vu le J'ai vu les photos, je dis, ah, faut vraiment y aller, c'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Donc, ça fait partie, voilà, ça fait partie des gros projets.
Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Bon, je pense, tu veux encore ajouter encore
quelque
chose?
Non. Je veux le côté Asia.
Moi, ce que je voudrais savoir, et là, on va attaquer un peu la partie marché actuel, tes objectifs actuels et futurs sur Sora.
Ouais.
C'est vrai que c'est difficile maintenant, on navigue un peu dans la tempête, etc. Mais quels sont-ils? Qu'est-ce que tu t'es fixé finalement comme objectif, à part évidemment rester actif avec la communauté, mais si tu regardes ta galerie, toi en tant que manager.
Ouais, bien sûr. Alors, je vais en faire bondir plus d'un, je pense, parce que j'ai envie d'aller complètement à l'encontre de ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de managers cherchent à sortir, donc ils cherchent à passer sur une scarcity inférieure parce que plus liquide, donc plus facilement revendable. Moi, je suis plutôt en train de monter en scarcity. J'ai déjà commencé à avoir pas mal de super rares depuis. J'ai beaucoup acheté pendant la trêve pour le coup à des bons prix, et notamment en Asie, parce que c'est pareil, les super rares en Asie, t'arrives à faire quand même des bons coups. Et là, je pense que je vais encore accentuer ça. Pour moi, pourquoi? Parce que déjà, je serai plus contraint par la supply de Sora, qui est clairement un vrai problème. Et on le voit notamment sur les limited. On n'a pas assez d'onboarding, enfin pas de façon suffisamment importante pour absorber la supply des limited. Et on voit les limited, c'est les montagnes russes en permanence. Et là, sincèrement, en ce moment, les prix, c'est vraiment la folie. Alors, en rare également, en super rare également, mais je trouve de manière avec un levier moins important. Comme je le disais hier à un gars qui m'en parlait sur notre Discord, je disais, malgré tout, les super rares, t'en as maximum 40 par joueur, quoi. Et encore, je me trompe peut-être, c'est peut-être 30 ou...
Enfin, ouais, voilà,
t'en
as... Ouais, ouais.
Ça, entre guillemets, c'est pour moi, c'est un peu un refuge aussi. Donc, si ça marche, que je te dis, bien évidemment, si Sora se pérennise dans la durée et si t'es long terme, avant que on arrive à absorber la supply des limited, je pense qu'il va se passer, beaucoup de temps. Il va falloir qu'il y ait un paquet de monde qui rentre sur le jeu. Et on voit bien la courbe, même si elle continue à monter, le nombre quotidien de joueurs, il est à peu près stable. C'est pas exponentiel, comme ça a été le cas en 2021 où on voyait vraiment une courbe
complètement décorrélée.
Voilà, là, ça n'a plus rien à voir. Et donc, quand on imagine qu'ils peuvent ressortir encore, c'est 500 joueurs à peu près en limited qu'ils arrivent à sortir, qu'ils arrivent à miner au niveau des cartes.
Par an,
ils sortent combien de cartes à peu près maintenant de limited?
Par joueur?
Ouais, par joueur, pardon. Ouais.
C'est difficile à dire. Franchement, c'est difficile à dire. Là, c'est vrai qu'on n'atteint jamais le supply maximum.
Non, bien sûr. Mais on est au moins entre 300 et 500, je pense, quelque chose comme ça.
Ouais, même un peu plus. Ouais, même un peu plus. Là, actuellement, déjà, j'en discutais justement avec un manager avant-hier. Non, il se passe. Le manager, c'est David. David Boga Junior, qui est aussi dans Mediasora, et on regardait les enchères actuelles, et il y avait Mbappé qui se terminait hier. C'était seulement la 34e carte de la saison, quoi. 34,
ah ouais, d'accord,
hein. Okay. Donc, il y a eu quelque part, finalement, du côté de Sora, un ralentissement. Kimmich, on avait regardé, c'était plus ou moins 40, 45. Donc, on n'est même pas atteint donc, ça veut dire que ça risque de continuer, quoi. Et donc, s'il continue à imprimer, ça veut dire aussi, comme on se rapproche quand même très, très fortement de la fin de saison, que ça risque encore de chuter, sauf gros revirement. On attend les annonces avec impatience. Mais oui, les limited, c'est même plus des montagnes russes, quoi. T'as l'impression d'avoir une descente de 3000 mètres au niveau de la mer, quoi.
Non, mais voilà, donc c'est pour ça. Donc moi, vu que je ne souhaite pas sortir du jeu, et vu que je suis long terme, parce que je crois à ce projet, j'estime que les bases, elles sont solides. Enfin, ils ont quand même signé toutes les plus grosses ligues. Enfin, je vois quand même plein de choses très positives, même si on évoquera après tout ce qui va pas. Mais voilà, ils ont monté quand même un projet magnifique. Et enfin, je trouve que t'en es le meilleur exemple. On est drogué, t'es sorti, t'es re-rentré. Je veux dire, parce que malgré tout, alors il y a certainement l'aspect, si ça repart, j'ai pas envie de rater le coche, mais il y a aussi l'aspect parce que t'aimes l'aspect communautaire et parce que t'adores le jeu, t'adores aligner tes cartes,
T'as résumé les principales raisons, et puis aussi, c'était pour moi un nouveau jeu maintenant. Parce que l'objectif de re-rentrer, c'était, ok, je vais recommencer à jouer, évidemment, avec un invest avec lequel je suis à l'aise, parce que la valeur galerie que j'avais avant, c'était quand même des sommes conséquentes, et je suis père de famille, etc., donc il y a moyen de faire pas mal de choses avec ça, de construire productif pour bah voilà pour au niveau familial. C'est pas comme si j'étais tout seul et finalement je m'en fous. C'était pas le cas. Donc là je dis je vais rentrer avec une somme bah, qui est quand même pas mal. J'ai une galerie. On va pas te parler de valeur, mais bon. J'ai mis 20 éthers et pour le moment ça vaut 19 éthers. Mais je me dis maintenant je me diversifie. Ouais, c'est pas mal, mais bon, en même temps, ça fait pas longtemps que je suis rentré, oui. ça fait un mois. Mais là, je me dis, voilà, je me rediversifie totalement. Y a plus de tabou. C'est-à-dire, on va en Asie, on va en Amérique. J'ai par exemple Quintero en rare et en SR qui joue en Colombie. Mmh. Je vise les papis parce que les papis, bah, ils coûtent moins cher à l'achat et en général, ils sont quand même très vite rentabilisés. Mmh. En tout cas, bien plus vite qu'une pépite. Donc, ça rentre aussi dans la stratégie. Et c'est vrai que les vieux, j'ai toujours aimé les vieux pour cette raison-là. Mais je touche à tout. Et puis surtout, je m'interdis d'acheter des goats. Des goats métasorares, jeunes, etc. Je dis non. Parce que finalement, la stratégie que j'avais eue avant, je dis je veux prendre que des blue chips parce que je sentais la baisse qu'elle allait venir. Et je me dis, bah, avec eux, ce sont les joueurs finalement qui valeur sont refuge. Susceptibles de garder le plus. Ouais, une sorte de valeur refuge. Mais en fait, non. En fait, non. C'est ceux qui sont ramassés le plus. Et finalement, ceux qui valaient pas tellement comme joueurs, bah oui, là, il y a eu une baisse aussi, mais moins drastique. Quoi.
Bien sûr.
Ça se voit moins. Et donc finalement, la galerie que j'ai aujourd'hui, bah, si tu as regardé mes joueurs euro, bah, ils ont bien baissé. Mais j'ai des autres joueurs qui ont pris de la valeur. Et donc finalement, je veux pas dire que c'est en équilibre, mais voilà, ça se compense.
Ouais,
ça se compense.
Tout à fait. Tout à fait. Après, il y a
c'est un nouveau jeu.
Non, mais
c'est
alors...
parfait avec des vieux et des sous-marins.
Ouais, non mais je vois tout à fait. Alors déjà pour tous les auditeurs, sachez que Mehdi maintenant effectivement joue l'Asia et vient me poser des questions Asia. Hein, donc faut quand même le signaler.
Ça, tu peux le dire.
Quand j'ai vu tes premières questions, j'ai dit oula, c'est bien toi Mehdi, t'es sûr?
Ouais, donc j'ai pris Yoki, mais je dois encore prendre l'autre, là.
Ouais, il faut aller le chercher.
Ouais, voilà, je vais attendre. Mais en fait, j'espère qu'il y a des cartes aux enchères qui seront mises bientôt. Donc, pour info, là, on est en train d'enregistrer en direct et Sorare vient de lancer les nouvelles cartes MLS de la nouvelle saison.
Ah, là, ça y est, pendant qu'on parle,
ça y est.
D'accord.
Là, ça y est. Okay. Là, il y a 5 minutes, ils ont lancé ça. Et donc, moi, j'espère que l'Asie va arriver.
Ouais.
Là, ils avaient bloqué avec les problèmes de couverture. Bon, au Japon, ça tombe bien. Donc, mais il n'y a pas d'accord. C'est avec le Japon ou la Corée?
Japon, ils n'ont pas re-signé. Alors, Nicolas m'avait répondu sur Twitter avec ses petits yeux là, qu'il aime bien nous mettre de partout, là, petits yeux et petits sabliers. Mais bon, c'était il y a 2 mois qu'il m'avait répondu. Et depuis on n'a pas de nouvelles. Donc, ouais, on en rigole beaucoup sur le Discord de ça. Donc voilà, mais depuis, bah, on n'a pas de news. Et c'est vrai que bah, moi qui suis passionné par la Divasia, aujourd'hui, c'est un peu malheureux, mais je ne joue pas la Divasia. Quoi. Je ne la joue pas. Je suis obligé d'aligner.
Parce qu'il n'y a rien à gagner derrière.
Bah, c'est trop faible. Le pool est trop faible. Et puis je suis plus. J'aime de plus en plus la K-League. Hein. Je m'y intéresse de plus en plus. Mais je suis plus G-League que K-League. Et c'est vrai que voilà, moi je veux gagner aussi des joueurs de G-League. Et aujourd'hui, bah, on peut pas. Et c'est vrai que cette division-là, on a vraiment le sentiment. Alors je sais que ça peut faire grincer des dents par d'autres membres de la commu. Mais nous, on a vraiment le sentiment d'être encore plus mis de côté que les autres. Quoi. Je veux dire, les dernières décisions qui ont été prises, bah, tu sais, la fameuse changement de deadline qui, pour pas mal de managers, ils s'en rendent pas compte. Mais la deadline à 16h, ça a coupé nos game week pour certains en deux. Il y a des mecs qui se retrouvent avec leur gardien qui joue en midweek et le reste de l'équipe qui joue sur la game week du week-end, quoi. Donc ça a été, quand on a râlé à ce moment-là, enfin moi sincèrement je suis extrêmement positif sur le jeu et j'émets très rarement d'avis négatifs, mais là vraiment pour le coup. Et le pire c'est que ça m'impactait pas moi parce que j'ai une profondeur de galerie qui me permet de, au contraire, j'ai même pu doubler mes game week. Mais je veux dire, je sais que j'ai plein de potes dans le Discord, ils ne pouvaient plus jouer. Ils ont été obligés de faire des achats-reventes à la baisse pour aller récupérer. Et ça, c'était, quand ils ont sorti cette décision, c'était à 3 semaines de la reprise. Enfin, tu vois, pour te retourner, c'est quand ça fait 3 mois. Tu te fais toute une stratégie et ils arrivent, ils te démontent ça en un truc, boum, ils t'ont tout démonté. Et là, tu fais, qu'est-ce qu'ils nous font? Bah, juste après, non-renouvellement de la Gili, on voit les cartes qui apparaissent pas, on dit, oula, qu'est-ce qui se passe? On voit plus les clubs affiliés à Sora.
Deuxième coup de massue, quoi.
Exactement, deuxième coup de massue. Un truc tout bête aussi, mais quand il y a les draft, la seule draft qu'il n'y a pas, c'est l'Asia. Ils vont faire la draft MLS, là, ils l'ont annoncé. Bah, il y a la draft, tu sais, pour les différents championnats européens et tout, mais l'Asia, t'as pas de draft. Donc, ça fait encore une chose supplémentaire. Et puis là, la cerise sur le gâteau, on va dire, même si là, on va dire qu'ils y sont pour rien, mais bon, ça, je trouve que ça s'anticipe un petit peu quand même. C'est changement de. Tu sais,
un tout petit peu.
Ouais, bah oui. Ouais,
ils auraient clair. Pu faire ça au, voilà, à la fin du championnat ou la trêve ou même voilà, à partir de tel game week, mais pas dans 5 game week quoi.
On est bien d'accord. Et puis le dernier truc qu'il y a eu, c'est sur la K-League avec les problèmes de scoring là. Tu sais, Opta maintenant Opta a plus le, c'est plus le leader en, enfin ils ont plus le contrat de la K-League, donc on a maintenant on joue plus le même jeu que tout le monde quoi. C'est-à-dire que nous on a les scoring 24 à 48 heures après quand on les a, parce que la première fois que ça arrivait, il y a eu un match qui a pas été couvert. Donc on se retrouve avec les histoires où t'as que les DS qui sont comptabilisés quoi. Enfin 35 pour les attaquants, 25 pour les remplaçants et les DS. Ah c'est franchement quand t'es joueur Asia, faut être bien accroché quand même. Hein,
faut vraiment être passionné ouais.
Ah ouais, faut être passionné parce que t'sais, on a l'impression tu sais qu'ils en mettent un coup sur la tête. Tu sais comme une taupe là, tu sais le jeu des taupes qui sortent avec les marteaux là.
Ouais,
pam pam. Ils nous en mettent.
T'essaies de sortir par là non.
Retourne dans ton trou. Donc voilà, mais bon, ça c'est voilà, c'était le petit coup de gueule, j'ai passé le message, mais c'est vrai que ouais, ça a été à ce niveau-là quand même, c'est je trouvais que c'était on a passé un sale quart d'heure quoi. Bon, maintenant
ouais, je comprends. Ouais, le coup on adore de gueule, ce il jeu. Est complètement justifié.
Ouais, ça, on avait pas mal échangé en plus ensemble. Je me souviens au début, tu t'avais pas forcément pris l'ampleur du truc. Et quand je t'avais expliqué après, t'avais dit ah ouais, effectivement, ça vous
ouais, défonce, et pour être tout à fait transparent, j'avais réagi. Je me dirigeais, j'étais à Paris pour le match NBA. Je me dirigeais vers les bureaux Sorar. Et puis j'ai vu ça. Et puis j'ai répondu. Et moi, je pensais aux personnes avec qui j'échange régulièrement et qui sont de l'autre côté du monde. Ils doivent se lever en plein pendant la nuit, etc. Mais c'est vrai que j'avais oublier le fait que là, la Game Week, elle était... Enfin, il y a des matchs qui se retrouvaient de la même journée de championnat sur deux Game Week différentes. Et ça, évidemment, ça, c'est pas faisable. C'est compliqué. Voilà, les gens qui ont des petites galeries, etc., qui ont justement pas la profondeur pour pouvoir aligner assez de joueurs, pour aligner une line-up, je comprends parfaitement leur frustration.
Bah c'est ça. Le seul le seul moyen pour eux maintenant, ça a été de faire des, beaucoup ont fait ça, c'est des full stack quoi. Bah, au moins t'es tranquille, t'es en équipe, elle jouera forcément. Ah ouais. Tu te fais un full stack, bon bah au moins tu voilà, t'es sûr de pouvoir jouer dans la bonne game week. Mais entre guillemets, c'est voilà, on joue pas au même jeu que tout le monde, c'est ça que je veux dire quoi.
Non,
voilà, ça,
tout à fait.
C'est ça, c'est le côté un petit peu problématique.
Et si on je reviens un peu sur ton
ouais sur ouais. ma stratégie
ouais ça ouais que, sur tes
pour
objectifs
coup, on est parti un
ouais.
peu ailleurs mais
c'est pas grave
mais sur les objectifs voilà moi je vais essayer de monter en rareté, de jouer de plus en plus les SR. Ben notamment j'ai pour l'instant en tout cas je joue la cape 240 depuis que l'Asie a repris. J'ai fait 3 sur 5, je parle des paliers hein. J'ai fait 3 paliers sur 5 et j'en ai raté un pour 0,16, enfin autant dire vraiment pas grand chose. Et je trouve que c'est très rentable. Alors c'est ça l'est certainement encore plus maintenant, mais quand tu joues, quand t'achètes des SR en Asie, et franchement, j'ai monté une équipe SR gardien inclus pour moins de 0,7. Bah, là, quand tu chopes le palier qui est actuellement au cours de l'Ether actuel, on est à 0,06, quelque chose comme ça. Quand tu chopes un palier SR, franchement, moi je trouve qu'à la rentabilité, plein de gens se plaignent, etc. Je peux entendre.
C'est quasiment hein, à 10%, quoi.
C'est
magnifique.
Pour moi, c'est le top. Je pense que, bon, en plus, j'ai fait une bonne perf en 240, donc elle a déjà été rentabilisée l'équipe, mais sans même parler de gagner une carte. Si vous réfléchissez un peu, vous montez, vous avez un tout petit peu de profondeur, j'allais dire à un éther, ça vous donne de la profondeur, vous avez une équipe SR, franchement c'est je trouve que c'est quand même très rentable. Enfin moi en tout cas j'aime leur nouveau gameplay, je suis fan de ce qu'ils ont fait. Il y en a, je sais que beaucoup aimaient les anciens paliers où on pouvait aligner. J'entends hein, je comprends, au niveau du ROI c'était bien plus intéressant, j'ai aucun souci avec ça
d'en avoir mis en SR, c'est très bien.
Ah bah moi ça m'a fait, moi clairement en fait je m'adapte à ce qu'ils font aussi hein. Donc moi ils ont fait ça, j'avais peut-être 2-3 SR que j'alignais surtout tu sais pour faire de la D3 Asia. Moi j'ai vu le gameplay, boum, tout de suite j'ai commencé à m'intéresser à fond au marché SR, j'ai commencé à acheter mes SR. Voilà, je suis aussi ce que j'essaie de suivre un peu le mouvement quoi, ce qu'ils veulent mettre en place, de réfléchir comment dire, de me dire comment ils veulent, où ils veulent nous emmener et pourquoi ils le font. Et donc j'ai dit bon bah ok go, on y va. Et là la prochaine étape, ce que j'aimerais faire, et je vais peut-être essayer de profiter justement des baisses de prix de dingue, c'est peut-être aller me chercher une unique. Alors bien évidemment une Asia qui coûtera pas des 1000 et des 100 hein. Il y en a je pense à 0,4, 0,5, je dois pouvoir choper quelque chose qui tient la route hein, quelqu'un qui joue, et puis d'essayer de commencer à faire un peu de la kick-off. Franchement ça serait génial de jouer un peu de la kick-off unique.
Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée.
Voilà. C'est vraiment du SO5 hein. Enfin tu vois, je suis pas en mode ROI machin, voilà, moi l'idée c'est de m'éclater en fait hein. Je veux juste m'éclater.
Il faudrait voir les matchs et les joueurs que tu prends
exactement, voilà, sans me prendre la tête avec ma aller regarder ma galerie qui dé dévisse. Bon, elle dévisse, bah, c'est pas grave, mais je m'éclate sur le jeu. Et puis, je suis avec mes potes et l'aventure, elle est géniale. Enfin, après. Bon,
et donc, utiliser tes paliers pour acheter cette future
Ouais, par exemple, ça ou des ventes, parce que j'ai un paquet de cartes que j'avais pris pour. J'ai quand même pas mal de cartes que j'aligne pas, hein, que j'avais pris pour faire un peu d'air. Tu vois, j'ai 2-3 mecs là en attente qui. Je sais qu'il devrait y avoir une ou deux news qui devraient arriver. Bon, bah, normalement, je dis bien, dans un marché normal, ça aurait dû les faire pump. Bon, là, peut-être que ça va juste les remettre au prix d'achat. Mais l'idée, c'est de, voilà, c'est de revendre aussi quelques cartes pour pouvoir me l'acheter. Bah, je te cache pas que depuis que j'ai vu le prix hier de Cesigna, qui était le seul attaquant qui me manquait en rare, enfin, je parle des gros attaquants asiatiques, je pense que la case Cesigna va passer avant l'unique, là, pour le coup, parce que ça serait, j'ai pas trop envie de passer à côté. Alors, autant je te dis ça, et dans un mois, il est encore divisé par deux, mais bon, là, vraiment, il me chauffe beaucoup, ce joueur-là. Au prix où il est actuel,
je peux comprendre.
C'est vraiment intéressant.
Je suis aussi intéressé.
Ah, très bien. On en a parlé hier, en plus, donc oui.
Je suis intéressé aussi par ce joueur-là. Bon, l'heure, elle tourne très, très vite.
Ouais,
on est quasiment déjà à 1h30. On va attaquer le questionnaire rapide. Rapide, pour
allez,
l'inviter.
Vas-y, promis,
alors,
je vais faire.
Ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sora.
Vie réelle, alors j'ai vraiment hésité entre deux, mais Benzema et j'aime énormément aussi Steven Gerrard. En gros, ils ont la particularité, c'est des joueurs quasiment d'un club. Bon, Benzema a joué à Lyon, mais je veux dire, ils ont fait quasiment toute leur carrière dans un seul club. Et moi, cet aspect un peu fidélité au club, comme on n'en voit plus, j'aime beaucoup. Comme des Totti, des Maldini, ouais, des mecs comme ça. Voilà, moi, ça me parle, ça. J'aime beaucoup, puis on n'en voit plus dans le foot. C'est important. Et puis bah, Benzema, parce que bien évidemment il
des Messi ou un Messi à Barcelone.
Ah bah Messi, ouais. Effectivement, t'as raison aussi. Ouais. Alors après, je suis d'accord, mais tu vois, voilà, fin de carrière, j'avoue que je suis un peu déçu, tu vois.
Ah oui, moi aussi.
Pour moi, c'est dommage qu'il aurait dû finir. Tu vois, il aurait dû faire peut-être 1 ou 2 ans de plus au Barça, bon, s'ils avaient pu le payer, et puis peut-être faire comme Gérard Lafay,
MLS. Je pense qu'il est, il était partant pour et que ouais. L'ancienne direction du Barça a quand même fait oulala, des erreurs. Enfin
c'est
bref,
sûr.
On sort du sujet. Mais Steven Gerrard, ouais, à Liverpool,
voilà.
Quel joueur.
C'est deux joueurs que j'aime particulièrement, où j'étais très fan. Puis Benzema aussi, parce qu'il bon, est de Lyon, il vient de Terraillon. Moi, j'ai grandi jusqu'à mes 30 ans à Bron-Terraillon. Voilà, tu sais, c'est un peu la proximité géographique qui fait que tu suis quelqu'un.
Ouais.
Et puis, c'est un magnifique joueur. Et puis, pour un attaquant, en plus, il joue très collectif. Et c'est très rare pour un numéro 9.
Fait.
Donc, voilà.
Tout à fait.
Ça et puis dans le jeu bah c'est Shinosuke Tanaka, hein, tous ceux qui connaissent un
l'ancien GOAT.
L'ancien GOAT
parce que je l'ai pris, je l'ai aligné et là je le mets en cap, je le mets plus dans mes très belles équipes parce que
ouais, c'est plus un genre de cap actuellement, je suis d'accord avec toi, mais t'as vu si tu regardes son scoring avant blessure, c'était la folie,
c'est énorme.
Franchement, c'était énorme et moi c'est le joueur, quand je suis rentré sur Sora, c'est le joueur qui me faisait rêver. J'avais regardé des matchs de Yoko, je disais waouh, c'est quoi ce gars, c'est un rock, franchement impassable, il faisait un AA de fou, de temps en temps il y avait un DS, enfin franchement je voyais toutes les équipes qui gagnaient, il y avait du Tanaka dans leurs équipes. Ouais, c'est le joueur que je voulais absolument dans mon équipe et puis bah j'ai réussi à l'acquérir.
Plus qu'un Kikuchi à l'époque.
Ah ouais, moi c'était Tanaka, ouais vraiment.
Okay.
Après enfin je trouvais Tanaka plus technique, Kikuchi hein, et peut-être encore plus physique, puis il prend tous les ballons de la tête, mais Tanaka ouais c'est vraiment le gars qui me faisait bien vibrer quoi. Alors après j'aurais pas craché sur avoir une défense un SO5 avec Tanaka Kikuchi hein, ça m'aurait pas gêné. Mais ouais, Tanaka, je voulais vraiment. Puis bah, j'ai été le chercher quand il s'est blessé, qu'il avait bien descendu. Puis bah, il nous a fait une saison 2022 hyper compliquée. La blessure n'était pas vraiment passée. Il y avait une interview qui disait que bah, il avait toujours des douleurs et Muscala l'a fait bench quasiment toute la saison, presque. Donc ça a été très compliqué à ce moment-là. Mais bon, ça m'a pas empêché d'aller rechercher encore à Tanaka, mais en SR cette fois-ci, quand il avait encore plus baissé. Donc voilà, c'est vraiment mon joueur totem.
Je vois. Et puis pourrait revenir hein, au plus haut niveau de son scoring, non?
Ouais. Je le souhaite vraiment. Bah, en plus, Yoko démarre super bien l'année. Franchement, là, il a joué tous les matchs 90 minutes. Il a été plutôt bon. Bon, même s'il y a eu un ou deux matchs, il aurait pu prendre un penalty. Est-ce que ça a été. Il a eu 2-3 trucs. J'étais content que l'arbitre le laisse tranquille, mais
c'était limite.
Ouais, c'était très très limite. Mais voilà, ça reste un super joueur. Il faut qu'il reprenne du rythme. Mais voilà, Yoko, c'est une valeur sûre. Et je pense que sa place de titu est assurée cette saison.
Ouais. Moi, je ne l'ai pas encore gardé. Donc, c'est dans ma to-do list du week-end le matin, c'est regarder une fois quand même
ouais.
Le meilleur défenseur que j'ai en Asia.
Ah bah écoute, tu me diras. Tu me feras un retour.
Ok. Ton plus beau résultat. Je pense que c'était il n'y a pas très longtemps.
Bah, c'est très récent, mais en fait, c'est pas de ma faute. Hein, c'est grâce à toi. Hein. Tu m'as dit. Je t'invite au podcast. Bon, boum, résultat. Mais en fait, c'est juste tout le monde pareil. Donc, j'ai rien
c'est
fait.
Dingue.
En fait,
hein. C'est dingue.
Non, mais va vraiment
faire des ondes positives
approfondies là-dessus. Parce que je crois qu'il y a un problème quand même.
Ouais, je crois qu'il y a les Pogba derrière ça. C'est pas possible autrement.
Ah oui, t'as été marabouté. C'est possible. C'est possible. Donc, bah, c'est deuxième place en. J'ai jamais gagné. Moi, comme j'ai dit, je suis pas un très bon joueur de SO5, mais j'ai fait une deuxième place en CAP 240 SR avec quasiment que de l'Asia et Thorsten Maurer que je connaissais absolument pas.
Ah oui,
et tu te souviens, je t'avais posé des questions un mois avant. Tu te souviens, je te disais, tu connais ce joueur? Je
trouve qu'il je l'avais
acheté, mais je t'avais dit, je trouve qu'il a un scoring très régulier. Il faisait du 55 à peu près de moyenne. Et je te dis, je comprends pas, il fait 0,09. Est-ce qu'il est pas blessé? T'as une info dessus? Parce que franchement, je le connaissais pas du tout. Et puis, bah, résultat, l'autre il me sort son meilleur match en 3 ans de Sora, il me fait 84, truc improbable, et puis bah, le reste des joueurs Asie a bien performé, et donc bah, ça m'a permis de faire une deuxième place, donc voilà, c'était ça, c'était très récent.
Et t'avais gagné qui?
J'avais gagné, alors pour le coup je le connaissais pas, parce que je suivais pas le Feyenoord, j'avais gagné Santiago Jiménez en SR, donc c'est un jeune, j'ai regardé un petit peu, hein, mais c'est un attaquant c'est un attaquant U23 de 20 ans, qui est titulaire au Feyenoord, et je l'ai, pour la petite anecdote, je l'ai aligné donc la semaine dernière, pour tenter, j'ai dit, ah, c'est ma reward quand même, c'est une de mes plus belles cartes en valo, je vais l'aligner. Et pourtant, c'était contre l'Ajax. Hein. Et au bout de 5 minutes, boum, il plante un but, il me fait un DS, 63, je crois, il a fini au 64, et il m'a fait choper encore un palier SR. Donc voilà, c'était cool.
Magnifique. Voilà. Bah, comme quoi, tu vois, ça, c'est l'effet boule de neige.
Exactement.
Ouais, très, très, très bon joueur. Alors, ton plus gros coup de poisse?
J'ai pas un coup de poisse en particulier, j'en ai eu plein comme tout le monde, et puis je vais pas prendre la tête aux gens avec ça. Moi, c'est vraiment. Moi, ce coup de poisse, moi, c'est Muscat pour l'ensemble de son œuvre, l'entraîneur de Yoko. Parce que bah, fin 2021, Yoko finit deuxième. Je me dis, bon, je vais monter une grosse équipe, comme je te l'avais dit, avec ma stratégie achat-revente limited, etc. J'avais pas mal de fonds. Et donc, je me monte un super stack Yokohama avec vraiment les gros joueurs. Et puis, Muscat a fait du Muscat et ça a été la catastrophe toute la saison. J'ai eu des DN. Mais là, vraiment, pourtant, je le suivais de près. Hein. Mais quand il y en a qui parlent de Nagelsmann, mais les gars, Nagelsmann, c'est un enfant. Muscat, c'est le papa de Nagelsmann. Je vous le dis, moi. C'est imprévisible, ça a changé tout le temps.
Il est de quelle nationalité ce coach?
Ah, Muscat, oh, j'en sais rien du tout, mais en tout cas d'une nationalité qui me convient pas, je sais pas laquelle c'est, mais je peux te dire qu'il m'a bien, ah ouais, il m'a tué un paquet.
C'est australien. Kevin Muscat, australien, voilà.
Ah oui bien sûr. Pour l'anecdote, il a failli partir j'étais content parce qu'à la fin de la saison où ils ont été champions là, Yoko, il était annoncé au Celtic, au Rangers pardon, à Glasgow, et je me disais, ah, si les Rangers pouvaient le prendre, je serais très très heureux.
Il me laisserait un peu tranquille.
Il me laisserait tranquille. Ouais, là, il m'a tué des. J'ai une line-up en tête où je fais 276 points en 3 joueurs, en Asie Pro, avec mes 2 SR qui font. Il y avait Lee Yong-jae de Kim Cheon et Jun Sung-yeon, pareil, le défenseur central de Kim Cheon. Et en gros, Lee Yong-jae fait à la dernière minute corner, tête de Jun Sung. Donc je prends 2 DS. Les 2 font plus de 100 points, enfin 110, 120 points. Un truc comme ça, donc tu sais, ça démarre super bien. Je suis à 276 points en 3 joueurs et il me reste Marcos Junior et Atanaka qui avaient été titulaires tous les deux le match d'avant, qui font un bon match et le match démarre pire que ça. Atanaka absent, Marcos bench, et franchement, il y avait largement de quoi gagner l'Asie Pro, mais franchement, tranquille. Et ce match-là, Yoko gagne 3-0, je crois, en plus. Enfin, tu vois le truc, quoi. Voilà.
Ouais,
il m'en a fait, mais
ouais, c'est une belle, c'est bien, ça rentre dans la catégorie des beaux gros coups de poisse.
Il m'a fait toute la saison comme ça et je me suis acharné, je me suis dit je vais finir par l'avoir, et Kevin Muscat était plus fort que moi, il m'a eu.
Voilà. T'as reconnu le maître.
Mais c'est ça, exactement.
Alors, ton joueur à suivre?
J'ai pris, je suis resté sur Yoko, il y en a pas mal qui le connaissent, le petit Ryotaro Tsunoda, défenseur des Marinos. Donc, c'est un jeune de U23, par contre, il est plus U23 à partir de juillet. C'est un gaucher, là, pour l'instant, il prend la place de, donc, l'année dernière, déjà, il a fait vraiment une bonne saison l'année dernière, il remplaçait souvent, Atanaka. Et là, pour le coup, il remplace Eduardo. Donc, ça, c'est pareil, c'est encore une Muscat, on comprend pas tout. Mais bon, depuis qu'il le remplace, franchement, c'est un joueur qui fait beaucoup de A.
Vrai, Eduardo aussi, il est sur le banc, lui.
Ah ouais, alors, écoute bien, écoute bien. Voilà. Eduardo, on l'annonce blessé. Il y a 10 jours de ça, enfin une semaine, match de coupe, d'accord ? Il le met titulaire. Devine qui est élu joueur du match. Eduardo, joueur du match. Le match du week-end arrive. Eduardo vient d'être élu joueur du match. C'est quand même leur tour de contrôle. Enfin, c'est le mec qui, c'est un transfert qu'ils ont payé quand même assez cher à Tozu quand ils ont été le chercher à Sagan. Le mec, c'est un des meilleurs défenseurs de G-League. Et là, dans mon Discord, t'as tous les mecs qui disent, oh les gars, c'est sûr, obligé. Il a été joueur du match, élu homme du match. On aligne Eduardo. Et moi, je leur dis, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je connais Muscat. Mon Eduardo, il va aller tranquillement en training. Je dis, hors de question que je l'aligne. Et franchement, et c'est là que tu dis, ouais, l'expérience, ça paye. Parce que Eduardo bench tout le match.
C'est dingue.
Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais bon, voilà, je sais que Ben Cote.
Donc le Tsunoda, récemment, finalement, il pourrait perdre sa place profit d'Eduardo, quoi.
Alors, pour tout te dire, c'est un super joueur, c'est un super jeune. Et je pense qu'il va à l'avenir cartonner. Mais perso, je l'ai vendu là. Parce que j'ai dit, il est parti hier, tu vois. Je l'ai mis en vente pour le coup plus cher que ce que je l'avais acheté. Mais j'ai préféré quand même le revendre parce que, Muscat, il me fait flipper, ce mec. Tu sais pas, Eduardo va revenir, après ça va changer. Pour l'instant, le seul qui me paraît un peu près safe, c'est Tanaka parce qu'il est droitier et Tsunoda et Eduardo sont gauchers, donc je me dis que bon, l'année dernière il l'a déjà fait, mais ça sera plus compliqué normalement de jouer avec deux mecs à gauche, enfin deux pieds gauche. Ouais. Donc je suis parti sur le principe de garder Tanaka.
C'est une bonne info à savoir ça.
ouais, c'est vrai. Mais il y a de bonnes chances qu'il le fasse bench. Après, Tsunoda il peut quand même aussi dépanner, il a déjà joué arrière gauche, sachant qu'ils ont Nagato qui peut être amené de temps en temps à faire des dingueries, des cartons, des blessures, des machins. Voilà, Tsunoda peut aussi jouer à ce poste-là. Mais en tout cas, c'est un super jeune à suivre et je pense que voilà, c'est sûr que dans les années qui viennent, il prendra forcément beaucoup de temps de jeu dans quelle que soit l'équipe où il va jouer.
Bon, dernière question. Ouais. La question après assurée. J'ai plein de questions Twitter, il faudra que j'en sélectionne. Bon, si t'avais Nicolas Julia là devant toi, compte tenu de la situation actuelle, etc. Alors ils vont communiquer très prochainement. Ils ont contacté certains médias francophones, anglophones, etc. pour communiquer leur roadmap avec ce que j'ai vu là, le project, enfin le responsable du pôle foot qui va aussi parler. Il y a Zuro aussi. Bon, si tu les avais ou si tu as uniquement Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire?
Bah, déjà, le commencement, c'est
merci.
C'est merci, félicitations. Non, mais ouais, clairement, merci.
Ouais,
félicitations pour ce projet que tu as créé qui est fabuleux. En plus, moi, j'adore les histoires entrepreneuriales comme ça qui sont des réussites et il n'y a rien à dire.
Success story,
le business model, il est énorme. C'est un jeune, enfin, bravo. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Maintenant, une fois que tu as posé, que tu as posé ça et que je lui dirais attention, mais il le sait, je pense. Hein. T'es pas arrivé encore. C'est pas parce que on sent vraiment, j'ai senti que la PL, c'était vraiment le truc. C'était dans la bouche de tous les managers. Je pense que Nicolas aussi pour lui. La PL, c'était un truc qu'il avait en ligne de mire très important. Et tu sais, c'est comme quand... Moi, je le vois des fois avec mes commerciaux, quand ils sont à bloc sur un sujet en particulier, au bout d'un moment, il y a un relâchement, tu vois. Tu sais, ils atteignent leur objectif, boum, tu sais, il y a toujours ce petit sas de décompression. Et ouais, ça me donne un peu cet effet-là, tu vois, style, on a atteint la PL, boum, tu vois, ça y est, c'est fait. Mais non, c'est pas fait, en fait. Là, ça démarre. Et c'est là qu'il faut être à fond, derrière ta communauté. Bien évidemment, le gros problème de cette boîte, c'est ce manque de communication avec sa communauté. Et pourtant, qu'il y ait une communauté, j'ai jamais vu une telle communauté sur un autre projet. Enfin, aussi soudée, aussi, la plupart du temps, aussi bienveillante, avec tellement d'idées qui foisonnent dans tous les sens. Enfin, franchement, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser, tellement il y a des bonnes ondes, il y a des gens qui proposent des choses qui me paraissent juste ultra pertinentes. Il manque clairement une passerelle entre les deux, je pense. Alors, Zoro le fait un petit peu, il est déjà venu me parler via Twitter ou quoi, et c'est très bien. Mais si tu veux, il y a ce côté un peu, on sent que voilà, ça éteint des feux de temps en temps. Alors déjà, je trouve que ça met trop de temps à les éteindre. Faut pas attendre qu'il y ait des feux de forêt, hein, et là parce que t'es obligé d'envoyer le Canadair, quoi, tu vois. Et là pour le coup, eux, ils arrivent. Des fois, j'ai l'impression que t'as un feu de forêt, puis ils arrivent avec leur petit arrosoir. Non, là, quand c'est comme ça, faut envoyer la sauce, et surtout, faut pas attendre d'en être là. Faut que t'as un départ de feu, t'éteins tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça.
Et puis faire de temps en temps des contre-feux, ça permet d'anticiper, d'être proactif et de limiter que des feux se propagent.
J'allais dire être proactif, exactement. Sentir quand ça commence à sentir un peu le sapin et puis anticiper un peu plus les choses. J'ai l'impression qu'ils s'attendent trop que, tu sais, c'est un peu le curseur, ça râle, bon, ça va, ça râle beaucoup, ah, on va peut-être faire une communication. Voilà, anticipez plus votre communication, les gars, parce que vous êtes sur un projet de folie, vous avez des gens qui sont, je pense, ultra compétents, et puis vous avez des joueurs qui sont ultra investis. Il y a tout pour que ça fonctionne. Maintenant, communiquer plus avec eux, enfin, c'est tellement important. Enfin, tu vois, moi, depuis les deux yeux de Nicolas, là, pour la G-League, il n'y a plus rien. Franchement, il rebalance un tweet. Je vois, parce que c'est ce que je fais avec mes gars, moi, quand ils me posent des questions récurrentes. De temps en temps, tu leur dis, les gars, vous inquiétez pas, on est toujours dessus. Sachez que, voilà, on va avancer là-dessus, je vous tiens au courant. Et t'as rien dit, hein. Mais tu dis ça, les gars, ils disent, ok, il est sur le sujet, il s'en occupe, machin. Tu dis rien, bah, qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais, ça, tu donnes libre.
Exactement.
Ah ouais, non, c'est libre cours à tous les délires, les fantasmes, les hypothèses qui peuvent avoir, comme aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, bon, on va pas attaquer ça maintenant parce qu'on arrive vraiment à la fin et Laurent qui monte gentiment le podcast, ce truc, il doit se dire, bon, c'est quand qu'ils vont finir de discuter pour qu'on reste dans le timeline fixé. Mais ça va être discuté à partir du moment où ils vont communiquer et tout. Mais c'est pourquoi attendre? Pourquoi il y a des baleines, etc. Parce que faut pas se mentir. Si les prix des cartes ont atteint un tel sommet, c'est parce qu'il y avait des gros portefeuilles derrière qui étaient prêts à mettre des milliers d'euros sur des cartes. Et le problème, c'est que en développement, le free-to-play et c'est top, c'est vraiment top pour embarquer un maximum de fans. Mais malheureusement, je veux dire, pour le côté économique financier du projet, ben sont des gens qui vont peut-être mettre 100, 200 euros, mais c'est pas ça qui va racheter ou qui va remonter des cartes de Mbappé rares à 20 000 euros. C'est pas possible. Et le problème, c'est que beaucoup, énormément de baleines ont dit, enfin, on fait des propositions pour augmenter, pour mettre des paliers sur les uniques, hein, une meilleure redistribution, etc. Ça n'a jamais été fait. Ce qu'ils ont fait, oui, c'est mettre, et je trouve ça vraiment intéressant pour des galeries moyennes de 5 à 20K, les caps en SR, etc. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va contenter des gens qui posent 100, 200, 300, 400K dans le jeu. Et pourtant, c'est eux qui font vivre, qui maintiennent le système et au contraire qui continuent à le nourrir, hein, parce qu'en général ces gens-là ont des carnets d'adresses et évidemment quand ça monte, ben ça attire beaucoup plus de monde que quand ça descend, c'est tout à fait logique. Et donc ma question, moi, aujourd'hui, c'est si ils sont au courant de ce qu'ils auraient pu faire, de ce qu'ils devraient faire, entre guillemets, pour contenter ces gros investisseurs. Et pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a une raison? Enfin, je présume, tu vois, là, ce sont des hypothèses. Je présume qu'il y a des raisons valables derrière, qu'on ne connaît pas évidemment le contexte, mais c'est quand même fort interpellant. Et c'est pour ça que, malheureusement, il y a beaucoup de baleines qui ont quitté. Certaines, il y a déjà un an, en disant, ouais, enfin, je me rappelle, j'avais discuté avec pas mal d'anciennes baleines qui ont quitté, je leur voulais savoir pourquoi, parce que moi finalement, comme je l'ai dit dans l'une ou l'autre fois dans un podcast, pour moi c'est un jeu, oui, mais c'est un investissement aussi et je le suis comme un investissement, donc de près, et donc c'est important de connaître les tendances et connaître les raisons, etc. Et ils sont des gens qui avaient jeté l'éponge parce qu'ils se disent, voilà, il n'y a pas assez de rétribution, qu'est-ce qui nous pousse, nous, à mettre des 100K, 200K sur des cartes, s'il n'y a pas de retour, autant les dépenser autre part, quoi, tu vois.
Ah non, mais enfin, complètement, je pense qu'il ne faut pas opposer bien sûr les petits portefeuilles aux baleines comme on le voit trop souvent.
Non, pas du tout, il en faut pour tout le monde.
Bien sûr, non, mais exactement. Et effectivement, aujourd'hui, tu l'as très bien dit, moi, la cape 240 SR, par exemple, même si elle pourrait être encore mieux valorisée, mais moi, je trouve que, vu comme je l'ai abordée, ça me va bien, comme elle est faite. Mais par contre, je me dis, tu joues les uniques, vu la valeur des uniques, bah, effectivement, le palier à 250$, en fait, les mecs qui achètent des uniques, 250$, ça les fait pas vibrer, ça les fait pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Ils vont pas poser ce qu'il faut pour jouer une 240 unique, parce qu'il faut quand même un peu de profondeur, hein, pour pouvoir aligner, pour gagner 250$. C'est trop long, en fait, le retour sur investissement. Donc, ces gars-là, c'est clair que je crois que peut-être une bêtise.
Puis ça demande de la rotation aussi, quoi. C'est ça qui.
Ah, bah, il faut bien.
Vas-y. La rotation en SR, c'est déjà pas facile, mais c'est faisable, mais c'est en faisable. Unique.
Ouais, toi, en plus, t'arriveras pas à revendre. T'as raison, en plus. Non, mais il y a cet aspect-là. Ouais, mais imagine que demain, je dis n'importe quoi, mais le palier, ça soit 500$ ou 1000$ pour les uniques, vu le prix. Allez, 1000$.
Ouais.
Franchement, tu redynamises le truc à 200%. Enfin, ça va être la folie. Les mecs vont vouloir monter, enfin, même moi, ça va me donner envie de monter de Scarcity. Tu vas redynamiser tout ça. Si tu redynamises les uniques, forcément, tu redynamises en dessous aussi. Enfin, ça va suivre. C'est obligatoire. Et clairement, aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont pas assez pris en compte. Des fois, je me dis qu'ils ont peut-être, dans leur prévision, parce que j'essaye de me mettre à leur place, et je me dis, quand tu vois ta courbe de nouveaux entrants qui est en train d'exploser, machin, est-ce que tu te dis pas au bout d'un moment, bah écoute, si les mecs ils veulent sortir, les gros, est-ce que c'est si grave que ça si je continue à onboarder à fond par rapport aux prévisions qu'ils avaient peut-être déjà faites avant? Tu vois, peut-être que leur calcul, c'était de dire, bon, bah là, ça y est, ça commence, le bouche à oreille marche, on commence à faire le marketing, bon, même s'il est très très loin de ce qu'il devrait être, mais on voit la dernière pub qu'ils ont fait pour la MLB, elle est quand même super bien faite, hein, elle est top, ouais, hein, bravo à eux.
Tout à fait.
Donc, peut-être que leur stratégie, c'est de se dire, bah, effectivement, ça va démarrer, ça va aller à fond, mais tout à l'heure, t'as parlé d'un truc très important dont ils veulent parler là, et pour moi, c'est presque un peu tard, enfin, c'est dommage. T'as parlé de roadmap. Putain, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une vraie roadmap? C'est quand même vachement important. Ça éviterait justement de se poser toutes ces questions. Ah, on a besoin de savoir. Non, en fait, c'est pas qu'ils nous rendent des comptes, mais dites-nous un peu où vous voulez aller et ce que vous avez mis en place là, c'est dans quel objectif? Parce que, et là, en fait, ça permettra aussi aux gens de se projeter et surtout un peu aussi de les rassurer ou pas. Et dans ce cas-là, bah, les gens sortiront s'ils pensent.
Au moins, c'est clair, oui, voilà, c'est ça.
Au moins, c'est clair. Et là, aujourd'hui, ils te laissent dans un espèce de flou et tu sais pas trop, tu sais pas trop sur quel pied danser. Et ça, c'est très difficile sur un projet comme Sora.
Ouais, c'est ce que j'avais dit, l'incertitude, les gens qui investissent, qui mettent quand même des sommes importantes, il y a rien de pire que l'incertitude. Et là, le problème, c'est que les incertitudes, il peut y en avoir, mais là, ça dure depuis quand même, je trouve, quand même quelques temps, avec tous les exemples de si, les poules, les machins, les changements de game week, les finalement pas de U23 avec gardien pendant la Coupe du Monde. Enfin bref, sont des choses qui auraient pu être vraiment anticipées, honnêtement, et ça demande juste un peu de sérieux, de prévision, tout simplement, et c'est quand même assez étonnant que ça ne se fait pas. Voilà, le gameplay qui évolue, c'est top, mais il y a trop d'incertitudes aujourd'hui. Quelqu'un qui va mettre des sommes importantes, ben, il voudrait savoir quand même où on va au moins pour les 6 prochains mois. Ouais. Là, même, ils ont rajouté les paliers en AS, en AS Pro pour justement essayer de redynamiser un peu le prix des T1 et des T0.
J'ai trouvé ça top, moi.
Mais ils ont dit que on va le revoir, ça peut évoluer, et puis finalement, ça a donné un petit bump pendant 2 semaines. Moi, j'avais quitté à ce moment-là et on m'a dit, ouais, mais dis, t'as vu, ouais, mais dit oui, mais honnêtement, ça va faire bump et puis ça va refaire plouf. et ça a refait plouf, ouais, parce que c'est pas assez c'est pas assez conséquent. Mais encore une fois, il faut pouvoir plaire à tout le monde. Mais ce que je me pose vraiment la question, c'est pourquoi ils manquent pas d'idées. S'ils n'ont pas mis par exemple un palier à 1000 sur les uniques, c'est qu'il doit avoir certainement une bonne raison. Alors est-ce que c'est au niveau de la régulation, au niveau de, faut pas oublier que le siège est quand même en France, donc est-ce que la NG est-ce que c'est un point de blocage quelque part, ou bien ce que c'est au niveau de, finalement, de leurs finances, parce qu'ils ont un deuxième siège, ils ont quand même plus de 150 collaborateurs, dont très haute pointure, qui viennent de très très grosses boîtes, et donc à mon avis, au niveau salaire, c'est pas mal. C'est vrai qu'ils ont des levées de fonds qui ont été hyper conséquentes, donc je me dis, il y a quand même, en général, en start-up, quand ils font des levées de fonds, ça leur permet de progresser dans la durée, mais voilà, moi j'ai pas des yeux, je sais lire un bilan, etc., sans problème, mais on connaît rien de ce back-office, et peut-être qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils ne peuvent pas le faire quelque part. Au niveau financier, peuvent pas au niveau financier, mais peut-être aussi au niveau régulation, ou peut-être les deux en même temps. C'est l'hypothèse, j'en sais rien.
Juste pour la régulation, est-ce que tu penses qu'il y a une réelle différence? À partir du moment où tu donnes 20 ou 200 euros, que t'en donnes 1000, tu crois que ça change quelque chose?
Je sais pas du tout. Je sais pas, j'y connais rien du tout là-dedans, j'ai jamais été parieur et tout, mais je sais pas s'il y a un certain seuil au niveau du système de régulation, je n'en sais strictement rien.
J'en sais peut-être rien non pas. Plus, mais à mon avis, une fois que si tu peux donner 250, à mon avis, tu peux donner 1000. Il y a peut-être un seuil, mais je pense pas que 250 ça soit le seuil max auquel ils peuvent aller. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'en même temps, ils nous les donneront pas, ces chiffres. On manque clairement de visibilité, parce qu'on parle beaucoup, mais on sait pas non plus ce que coûtent les accords avec l'APL, tout ça. Enfin, voilà, on a quand même
vu des chiffres, c'était élevé, hein.
C'était 30 millions.
Peut-être que je me trompe, mais c'était dans les quelques dizaines de millions, ça, ouais.
Ouais. Donc, et il y a aussi ce côté, effectivement, c'est une boîte qui est là quand même pour générer du cash, hein, et c'est bien normal. Dans quelle mesure ils sont encore rentables? Aujourd'hui, c'est difficile de se rendre compte. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec les enchères qui sont en train de dégringoler, ils sont de moins en moins rentables, ça, c'est certain. Enfin, pour nous, après, dans nos études, est-ce qu'ils peuvent mettre les choses qu'on pense qu'ils devraient mettre en place? Ça, il y a, entre guillemets, il y a qu'eux qui peuvent le savoir par rapport à leur cahier des charges et la rentabilité qu'ils génèrent. Si ça se trouve, aujourd'hui, ils sont déjà dans le rouge avec les accords qu'ils ont mis en place avec l'APL, les autres ligues, et notamment la NBS. Pareil, la NBS, ça doit être important.
Oui, et puis ils ont peut-être aussi des obligations au niveau du supply. Moi, je pense pas qu'ils doivent être dans le rouge quand même avec les levées de fonds qu'ils ont, parce que les gens qui investissent dans les startups, bien, ils savent que c'est de l'argent, entre guillemets, bloqué pendant quelques années. Mais je viens de vérifier, c'est bien 30 millions de livres. Donc,
d'accord.
35 environ millions d'euros, mais on verra bien.
Voilà, exactement.
On verra bien. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est au niveau des obligations aussi. À partir du moment où tu signes avec un truc, est-ce que dans les accords, est-ce qu'il y a un certain montant minimum qu'ils doivent rétribuer aux partenaires, ou bien c'est une obligation de mise en carte de vente? À mon avis, c'est plus un montant. Je pense que dans ces accords-là, il y a X pourcentage, mais avec un pot minimum, quoi. Tu vois, un montant minimum. Et donc, c'est vrai, quand ils voient les courbes là, baisser, là, c'est le branle-bas de combat pour redonner confiance. Mais j'espère qu'ils y arriveront, hein. J'espère vraiment. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, si on n'a pas des gros dedans, tu perds... s'il n'y a pas d'incentive. Par contre, ça peut aller très vite. Ça, je pense vraiment, si demain, ils décident de mettre 1000 en unique, je suis certain qu'il y en a pas mal qui sont partis, qui vont revenir, parce qu'il y aura vraiment une bonne raison de revenir, tout simplement.
Tu penses vraiment ça? Parce que moi, justement, ce qui, entre guillemets, si je dois être inquiet sur un truc, c'est un peu ça. C'est vu la tendance qu'on a actuellement, et ça marche, et ça, ce que je vais dire, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand tu commences vraiment à avoir une grosse hype sur ton projet et que tout réussit, ça monte très rapidement. Par contre, quand ça commence, la courbe s'inverse comme elle est en train de le faire en ce moment, pour la redresser, généralement, t'as un peu d'inertie. Hein. Je sais pas si une décision qu'ils pourraient prendre là aujourd'hui en disant application semaine prochaine réussirait de suite à inverser la courbe. Tu vois, je pense que l'inertie serait un peu plus importante.
Non, il faut rétablir la confiance d'abord.
Ouais, et ça, c'est la confiance, elle a été clairement entamée. Un peu à tous les niveaux, ils vont devoir vraiment reconstruire quelque chose. Et puis, comme tu dis, il faut une roadmap où on sait à peu près ce qu'on fait dans les 6 prochains mois. Si c'est possible, peut-être que je dis un truc qui est impossible, hein, mais il faudrait qu'on sache, on ait une visibilité au moins sur 6 mois, mais que ça bouge pas. Enfin, c'est-à-dire que ils nous sortent pas une mise à jour qui était pas prévue. Finalement, on réajuste comme ça. Non, c'est les gars ont besoin de faire vraiment leur stratégie et on a besoin d'avoir de la visibilité. Voilà, c'est super important
pour établir tout à fait la confiance. Mais je pense vraiment qu'ils naviguent un peu comme ça, qu'ils changent un peu les règles parce que ils doivent regarder en fonction de leur chiffre d'affaires. Ok, on peut se permettre ça parce que à mon avis, c'est vraiment dépendant de leur rentrée. Mais je suis d'accord, là, autant décider quelque chose de solide, le dire, écoutez, on le fait pendant 3 ou 6 mois, et être beaucoup plus proactif pour rétablir la confiance. Parce que c'est vrai que les gens qui sont partis, ils étaient excessivement déçus. T'en as même encore sur Twitter qui sont encore actifs parce qu'ils ont une grosse, grosse dent, toujours. Enfin, moi, je trouve ça un peu aussi acharnement à partir du moment où tu quittes. Quitte, quoi. C'est tout. Passe à autre chose. Tu vas pas gâcher ta vie à continuer à critiquer un projet dans lequel tu n'y es plus. Mais c'est vrai que là, la confiance, pour moi, c'est la priorité numéro 1, en étant proactif, en ne jouant pas aux pompiers à éteindre des petits feux avec un arrosoir, mais vraiment préparer quelque chose. Ok, on va faire un contre-feu parce qu'on va limiter ceci et donner vraiment, comme tu dis, de la visibilité, surtout au gros portefeuille, parce qu'on peut retourner le problème, je sais pas ce que tu en penses, dans tous les sens. S'il n'y a pas de gros investisseurs qui trouvent un intérêt dans le jeu et qui reviennent, le truc du ruissellement, exactement. Le ruissellement, c'est logique et tu retrouves ça dans absolument tous les domaines, quoi. Absolument dans tous les domaines, j'exagère, mais dans
fais gaffe à ce que tu dis, Mehdi, en ce moment en France, si tu veux, le ruissellement, tout ça. Tu vois,
c'est parce que ça m'avait frappé il y a quelques années et il avait été tourné en dérision. Non, je l'apprécie pas tellement, le gars, donc.
Ouais,
de toute façon, je suis apolitique, mais. Voilà, au moins c'est clair.
Si tu veux, t'as un peu de monde dans la rue en ce moment, donc ruissellement, tout ça, il y a des mots comme ça, on va les laisser de côté. Mais j'ai bien compris l'idée et je la partage complètement.
Bon, on arrive, on est à la fin, on a encore les questions Twitter et tout, mais vraiment on arrive au bout du bout. Et comme il y a énormément de questions, exceptionnellement, est-ce que tu ne voudrais pas y répondre directement sur le compte Twitter?
Eh ben, pas de problème.
Je vais peut-être en choisir une seule et on terminera là-dessus. Je sais pas si toi t'en avais sélectionné une qui te dit celle-là elle est vraiment pertinente.
Il y en a beaucoup, il y a vraiment des très très bonnes. Ouais, et après il y a pas mal de private joke, on va dire,
j'ai vu ça aussi.
Mais dans les autres t'en as une en particulier là, toi, ou c'est t'as regardé un petit peu celle qui t'intéresse le plus?
Ouais j'ai regardé, mais j'en avais sélectionné plusieurs. Il y avait la question, je crois que c'était Vivia.
Via. Alors c'est Via, c'est un membre assidu de chez nous.
On va terminer mais comme on a quand même abordé ce sujet-là, dis, comment penses-tu que du positif peut être insufflé dans le contexte actuel très négatif envers le projet Sorare, et comment Sorare et sa communauté doivent s'adapter et interagir face au développement de l'entreprise et les problèmes récents rencontrés? On a répondu partiellement à cette question-là, mais je te laisse finir par ce que tu as envie de dire.
Bon, déjà, Via, c'est une très bonne question, ça change de ce que tu nous dis sur Discord. Et plus sérieusement, c'est fait. Non, mais pour moi, vraiment, on en parle énormément, tout le monde en parle. Tout passera par cette communication. Sincèrement, il faut qu'il appuie, Sorare doit s'appuyer sur sa commu, doit mieux communiquer, doit peut-être aussi, avoir un groupe restreint de certains gros joueurs. Je pense à Mehdi, The Noob, SR1, tous ces gens-là qui connaissent le jeu sur le bout des doigts, qui fourmillent d'idées. Il faut qu'il y ait un espèce de petit groupe des sages là, justement, qui permettent à Sorare de confronter leurs idées, ou peut-être que c'est déjà le cas, mais alors en tout cas on n'est pas du tout au courant, mais ils doivent, quand ils veulent mettre des choses en place, confronter ça avec certains membres de la commu, et puis ça permettrait aussi de faire passer des messages. Pour moi, le salut de Sorare passera avant tout par plus de communication et beaucoup plus de visibilité, au moins à 6 mois. Parce que on a besoin de rétablir cette confiance. Là, elle est clairement entamée. Et si on continue dans cet esprit-là, je vois pas comment on va remonter la pente. Voilà. Les gens quittent, ça fait quitter d'autres gens, et là, ça fait une espèce de boule de neige. Et on est en train un petit peu de sombrer. Donc c'est dommage, parce que ce jeu est juste magnifique. Et j'espère pouvoir y jouer encore très longtemps.
Ouais, je trouve que c'est une bonne conclusion. Moi aussi, je partage ce souhait. Il me reste plus qu'à te remercier pour ce super moment, Seb. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'espère qu'on continuera. Après le podcast, à d'autres moments, comme on le fait de temps en temps. C'était très quali, je trouve.
Je te remercie infiniment. Je remercie énormément Laurent pour tout le travail qu'il fait en amont et surtout en aval aussi, et toutes les équipes Mediasora, parce que vraiment vous faites un boulot, je le dis sincèrement, de très grande qualité. Votre podcast, c'est quelque chose de franchement de pro, quoi. Et sachez que, en tout cas, nous sur le Discord, tout le monde vous écoute assidûment, et on attend avec impatience toujours le prochain numéro. Donc rien que pour ça aussi, j'espère que Sorare va pas s'arrêter, parce que on t'entendra plus et on aime trop t'écouter pour ça. Donc voilà, et on
merci
bientôt
beaucoup,
pour
et là voilà, ton Discord pourra enfin t'entendre aussi.
Exactement.
Merci Seb.
Merci à toi Mehdi.
Encore merci à Sébastien et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast, afin de lui donner la meilleure visibilité possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com.
Mediasorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare.